nous recevons Quentin Meillassou qui s'exprime dans le cadre de la sous-série métaphysique, cette position et argument qui est cette année consacrée à la question métaphysique du temps. Je rappellerai que beaucoup d'entre vous connaissent Quentin Meillassou puisqu'il est caïman dans le département de philosophie de l'école, qu'il y enseigne depuis quelques années, qu'il a soutenu il y a quelques années une thèse qui porte un titre qui n'est pas très courant en matière de thèse d'université, puisque le titre en est « L'inexistence divine », et qu'il vient de publier un important livre de métaphysique rationnelle, aux éditions du Seuil, dans la collection L'Ordre philosophique, qui s'appelle « Après la finitude ». Quentin Meillassou a fait des travaux d'histoire de la philosophie classique, mais aussi des travaux de recherche de métaphysique contemporaine. Et il a participé, pour ceux qui étaient, à la journée du groupe métaphysique et l'ENS en juin dernier sur pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, et travaux qui devraient être publiés dans quelques temps et dans lesquels il a aussi une importante contribution. Dans le cadre, à l'intersection des questions qui l'intéressent, lui, que certains d'entre vous ont pu connaître dans « Après la finitude » et de la question du temps, il y a la question donc, la question qui l'intéresse Quentin Meillassou, c'est la question de la contingence radicale des lois de la nature. Eh bien, il y a la question de la création ex nihilo, et c'est de cela qu'il va nous parler aujourd'hui. Je lui passe la parole en le remerciant d'avoir accepté notre invitation. Il va falloir...
La thèse que je voudrais défendre devant vous ce soir est la suivante. Je crois qu'il est possible, qu'il est souhaitable de réconcilier, pourrait-on dire plutôt de concilier, le rationalisme et même de façon plus spécifique le matérialisme avec la notion de surgissement ex nihilo. Alors j'ai conscience du caractère apparemment paradoxal, voire absurde, d'une telle déclaration. Pour tenter de la justifier et tenter de vous convaincre que cette perspective n'est ni inconsistante ni vainement provocatrice, je vais commencer par préciser ce que j'entends par surgissement ex nihilo, puis exhiber une difficulté philosophique précise, à mon sens radicale, que rencontrent tous les matérialismes que je nommerai désormais classiques, c'est-à-dire, dans la dénomination que j'adopte, hostile au surgissement ex nihilo. Cette difficulté concerne l'existence de ce que l'on nomme usuellement les qualia, c'est-à-dire les expériences qualitatives de la conscience, dans leur rapport à une science moderne fondée sur la mathématisation de la nature. J'opposerai alors au matérialisme classique un matérialisme que je nomme non pas nihiliste, mais ex-nihiliste, favorable au surgissement ex nihilo. Je ne suis pas un nihiliste, je suis un ex-nihiliste, et dont je tenterai de montrer, premièrement, qu'il peut résoudre la précédente aporie, que je nomme l'aporie des qualia, ou encore, on verra pourquoi, l'aporie du galiléisme. Et je tenterai secondement, c'est la pointe du paradoxe que je m'efforcerai de soutenir, que ce matérialisme peut le faire en s'appuyant sur un concept rationalisable du surgissement ex nihilo. L'enjeu est de faire de cette notion mal aimée, non plus l'opposé par excellence de la raison, mais l'instrument d'un matérialisme reconfiguré. Réconcilier donc le matérialisme et le surgissement ex nihilo. Alors, pourquoi paraît-il absurde de prétendre non seulement rationaliser le surgissement ex nihilo, mais de surcroît de le faire dans un cadre matérialiste? C'est que le matérialisme semble être le courant philosophique qui a par excellence procédé au rejet principiel du surgissement ex nihilo. Lucrèce l'écrit sans équivoque dans le premier livre du De Natura Rerum, et je le cite dans la traduction versifiée de Bernard Potras, « Il faut dissiper ténèbres et terreurs de l'esprit. Ce qu'il faut, c'est bien voir la nature et en rendre raison, et l'exorde pour nous en sera ce principe que rien ne naît jamais divinement de rien. » Alors pour Lucrèce, on le voit, la peur superstitieuse des hommes provient en premier lieu de ce qu'ils croient que toutes choses sont produites de rien à partir de la seule volonté des dieux. Libérer les hommes de la terreur divine en passe donc par la récusation principielle du surgissement ex nihilo. Car croire en la possibilité d'un tel surgissement, c'est croire que les choses peuvent se produire sinon sans cause, en l'occurrence la cause est identifiée à la volonté des dieux, du moins sans cause rationnelle, compréhensible en termes de puissance naturelle. Croire au surgissement ex nihilo, c'est livrer le réel au caprice tout-puissant d'êtres inintelligibles. C'est, d'une façon plus générale, renoncer à toute tentative de rationaliser la nature. On sait par ailleurs que ce principe du matérialisme antique a été relayé par les sciences modernes, notamment dans la fameuse loi de Lavoisier, qu'on résume par « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme », dont je donne la formulation exacte dans la bibliographie que je vous ai distribuée. Il semble donc à s'en tenir à ces deux instances classiques de la récusation du surgissement ex nihilo chez Lucrèce et Lavoisier, qu'on retrouve ici deux thèmes classiques de tout matérialisme. La critique de la religion, d'une part, qui combat dans la croyance au surgissement ex nihilo les diverses formes de la superstition, et d'autre part, le lien profond entre le matérialisme philosophique et la pensée scientifique. Car le surgissement ex nihilo ne vaut pas seulement comme critique du fait religieux, il vaut aussi et surtout comme idéal de compréhension rationnelle du réel, comme négatif d'un tel idéal, idéal qui s'est accompli dans la science moderne, celle-ci partageant avec le matérialisme antique le même refus des surgissements purs. Admettre au contraire de tels surgissements semble donc nous conduire directement à une pensée irrationnelle et superstitieuse, une pensée incapable de critiquer les formes irrationnelles de la croyance, une pensée en rupture avec l'idéal de la science. À mon sens, en vérité, il n'en va pas ainsi, mais pour le montrer, il me faut commencer par préciser ce que j'entends par cette expression au juste « surgissement ex nihilo ». Alors d'abord, je dirais que ce que j'entends par là, c'est exactement ce que dit l'expression. Un surgissement ex nihilo, pour moi, c'est un surgissement qui provient de rien. De rien, j'y insiste, et non pas d'un dieu païen ou du dieu judéo-chrétien. Lorsque Lucrèce dit que rien ne naît de rien, lorsqu'il dit plus précisément que rien ne naît divinement de rien, il entend récuser, avons-nous vu, que la volonté des dieux puisse être la source d'événements naturels. Mais il faudrait dire alors qu'il récuse les surgissements ex deo, les surgissements provenant de la seule volonté supposée toute puissante des êtres divins. Ce type de surgissement trouve, après modification et transformation de sa conceptualité, trouve son accomplissement dans le judéo-christianisme ou dans la philosophie judéo-chrétienne qui fait procéder de la seule volonté divine toute réalité sensible et matérielle. Convenons alors de nommer création ex nihilo cette idée d'une capacité divine de création absolue. Dans le cas des dieux païens, cette création pure se ferait à partir d'une matière préexistante. Dans le cas du dieu judéo-chrétien, il se fait à partir d'un pur néant de finitude. Dans les deux cas, la création ex nihilo est en fait une création ex voluntate dei, une création pure à partir d'une volonté divine. En soutenant la vérité du surgissement ex nihilo, je ne soutiens en rien celle de la création ex nihilo. Ne m'accordant aucune vérité de foi, ni aucun dieu suprahumain, étant incapable de comprendre comment un pur néant aurait pu précéder l'émergence de la matière, l'espace et le temps, je poserai comme un postulat immanentiste qu'il n'y a pas de création ex nihilo, ainsi entendu. Création de rien, à partir de rien, par une volonté divine toute puissante. Pourtant, je soutiens que le matérialisme a, en revanche, des raisons solides et directement liées à son attachement, d'une part à la science, comme mode de connaissance privilégié du réel, d'autre part à sa tradition de critique du fait religieux, a des raisons donc de soutenir qu'il y a, ou qu'il peut y avoir, des surgissements ex nihilo. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des surgissements qui ne viennent strictement de rien, et non de la volonté transcendante des dieux. En d'autres termes, le matérialisme, pour rester fidèle à sa tradition critique et rationaliste, me paraît avoir des motifs puissants de postuler un temps capable de surgissement pur. Pour comprendre la raison de cette thèse, je vais me tourner vers ce qui m'apparaît comme un paradoxe historique assez éclairant pour la question qui nous occupe. À savoir ce que l'on pourrait appeler l'embarras du matérialisme philosophique devant la révolution de la science moderne, c'est-à-dire sa mathématisation galiléenne. C'est ce problème que je nommerai désormais l'aporie du galiléisme et que je vais tenter d'exposer. Ce paradoxe historique inhérent à l'histoire du matérialisme moderne peut se formuler de la façon suivante. Nous savons tous que la révolution introduite par Galilée dans les sciences de la nature consistait en la mathématisation du mouvement des corps terrestres. Contre la thèse d'Aristote, qui voulait que les mathématiques ne puissent traiter que des êtres immobiles, tels les surfaces ou les trajectoires, Galilée avait démontré qu'on pouvait mathématiser la variation de position et même la variation de vitesse des corps en mouvement par le biais de la constance de leur accélération. La nature pouvait donc être, dans cette perspective, mathématisée de part en part, surface, trajectoire, mouvement. Et une perspective nouvelle s'offrait à la physique, ainsi repensée. Perspective progressivement déployée, notamment par Kepler, puis Newton. C'est-à-dire la perspective d'élaborer une science de la nature délivrée de la physique qualitative d'Aristote, car tout entière est constituée de lois exprimables en termes mathématiques. On sait également que les succès spectaculaires de la physique moderne au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle ont favorisé l'émergence d'un rationalisme nouveau qui, au nom d'une science de la nature ainsi repensée, a entrepris une critique des représentations religieuses qui trouvera l'un de ses accomplissements dans les écrits des matérialistes du siècle des Lumières. Autrement dit, nous avons l'habitude de penser, du moins le plus souvent, qu'il existe un lien de conséquence évident, en tout cas naturel, entre les succès de la science moderne, de la science galiléenne, de la science mathématisée non plus qualitative de la nature, et la renaissance du matérialisme incrédule au cours du XVIIIe siècle. Pourtant, à y regarder de plus près, nous découvrons qu'il n'en a pas du tout été ainsi, et que le matérialisme, loin d'épouser naturellement les thèses de la science moderne, s'est trouvé considérablement embarrassé par les postulats fondamentaux dont celle-ci procédait. Pour comprendre la raison de cet embarras, il suffit de nous tourner vers le philosophe qui, sans doute le premier avec une telle rigueur, avait pensé la nature de la nouvelle science, à savoir bien sûr Descartes. Descartes, c'est bien connu, avait opéré un partage strict entre la nature telle que décrite par la physique mathématique et réduite à son étendue en largeur, longueur, profondeur, et l'âme, tout entière chargée notamment des qualités subjectives que nous mettions par erreur dans les choses. Ce partage, qui avec Locke prendrait le nom de distinction entre qualité première et qualité seconde, supposait que la nature se réduisait à ce que pouvait en dire la science physique, c'est-à-dire à ses propriétés géométriques et quantifiables, l'esprit extraposant dans les choses des qualités subjectives qui, quant à elles, n'étaient que psychologiques et non pas intrinsèques aux objets extérieurs. Que signifie au fond ce partage dans l'esprit de Descartes? Comment peut-on l'interpréter? On peut dire, je crois, si on cesse d'employer son vocabulaire, on peut dire qu'il signifiait la vérité ontologique de la science nouvelle. C'est-à-dire l'idée que la science, en expulsant les qualités de son discours sur la nature, ne perdait rien d'essentiel concernant cette nature, puisque les qualités précisément n'existaient pas à même celle-ci, mais à même notre seul esprit. Ce qu'on appellerait après Descartes le dualisme, en guise de critique de Descartes, le dualisme corps-esprit, était la conséquence rigoureuse du galiléisme assumé de Descartes. Galiléisme au sens que je lui donne de mathématisation de la science et non pas d'affiliation à Galilée, dont Descartes ne pensait pas forcément beaucoup de bien. Mais alors, quelle était la conséquence de tout cela quand on se voulait cartésien? La conséquence, c'est qu'un cartésien refusant toute forme de surgissement ex nihilo, Descartes refusait toute forme de surgissement ex nihilo lui aussi, et ayant expulsé de la matière toute forme de qualité sensible, eh bien un cartésien était fondé à soutenir que l'esprit ne pouvait évidemment pas provenir de la matière ainsi réduite à l'étendue. L'esprit ne pouvait provenir que d'une entité elle-même spirituelle, une entité elle-même pensante, et non pas matérielle, d'une pensée élevée à un degré infini de perfection de Dieu. Le paradoxe auquel le matérialisme moderne allait se heurter, à mon sens durablement, était le suivant. Le matérialisme s'était toujours voulu l'ami de la science, entendu en général comme entreprise de compréhension rationnelle de la nature. Or, une science nouvelle avait émergé depuis le XVIIe siècle, qui allait formidablement de succès en succès, mais loin que cette science nouvelle se révèle l'allié naturel des matérialistes, elle semblait conduire directement à un dualisme radical, exemplifié par Descartes, et de nature intrinsèquement religieuse, parce que référant l'esprit à une cause évidemment non matérielle. Les matérialistes modernes, en effet, tout comme Descartes, et fidèles en cela aux principes lucréciens, allaient eux aussi rejeter, très généralement, sinon toujours, toute forme de surgissement ex nihilo. Mais il fallait alors résoudre l'aporie violente produite par la nouvelle science. Comment penser sans déroger à l'interdit du surgissement ex nihilo la cause des qualités subjectives face à une science galiléenne réduisant la matière à ses propriétés quantitatives, quantifiables? Le paradoxe donc du matérialisme moderne, c'est que cette difficulté redoutable provenait non pas seulement ou avant tout d'une métaphysique dualiste, d'une religion obscurantiste, mais du dualisme même de la science moderne. C'était parce que le cartésien était authentiquement fidèle à l'enseignement de la science galiléenne, et non pas fidèle à l'enseignement de l'Église, qu'il se trouvait immédiatement conforté dans l'idée d'une essentielle immatérialité de l'âme. C'était parce qu'il rejetait radicalement la physique périmée d'Aristote qu'il pouvait conclure logiquement à l'origine immatérielle de l'esprit. L'antimatérialisme risquait bien de trouver son allié le plus sûr dans la révolution rationaliste de la nouvelle physique. Or, à partir du moment où le matérialisme récusait l'idée que les qualités subjectives aient pu émerger de rien, récusait le surgissement ex nihilo, Que restait-il comme solution cohérente à une telle aporie? Comment concilier l'existence des qualités subjectives de l'esprit avec la science des mesures quantifiées? Ainsi posée, l'impasse était en vérité totale, même si elle pouvait et peut toujours être déniée de multiples façons. En fait, à mon sens, les matérialistes qui ont tenté de prendre ces difficultés à bras le corps, sans ruser avec elles, comme on le fait encore trop souvent, eh bien les matérialistes n'ont eu, à partir du XVIIIe siècle, et comme on va le voir jusqu'à aujourd'hui, le choix qu'entre deux options cohérentes, parce que radicales, face à une telle difficulté. Comme les deux termes ainsi compris sont incommensurables, qualité subjective, quantité objective, et que toute tentative de médiation est vouée à l'échec, il ne reste d'autre solution cohérente au matérialisme classique que de supprimer un des termes au profit de l'autre. Autrement dit, soit soutenir que le galiléisme est ontologiquement fallacieux, que les qualités subjectives et vitales existent en vérité à même la matière, et c'est à mon sens ce que l'on a appelé le matérialisme hylozoïste. Soit soutenir que le galiléisme est ontologiquement véridique, et soutenir que l'esprit peut lui-même être réduit à ses seules propriétés quantifiables, nier en conséquence qu'il y a des qualités subjectives, irréductibles à l'analyse scientifique, et c'est ce que l'on nommera le matérialisme behavioriste, ou, dans une version plus récente, le matérialisme éliminatif. Je voudrais donc esquisser très rapidement ces deux premières solutions matérialistes à l'aporie du galiléisme et dégager en quoi ces solutions me paraissent impraticables. Commençons par l'hylozoïsme. Alors je vous lis le début de l'entretien entre D'Alembert et Diderot, qui est dans le texte que je vous ai distribué, entretien fictif rédigé bien sûr par Diderot. D'Alembert. J'avoue qu'un être qui diffère essentiellement de la matière et qui lui est uni, est difficile à admettre. Un être donc tel que l'âme, considéré comme immatériel et inétendu, et pourtant lié au corps. Mais d'autres obscurités attendent celui qui le rejette. Car enfin, cette sensibilité que vous lui substituez, si c'est une qualité générale et essentielle, il faut que la pierre sente. Diderot. Pourquoi non? D'Alembert. Cela est dur à croire. Diderot. Oui, pour celui qui la coupe, la taille, la broie, et qui ne l'entend pas crier. Diderot résume ici l'alternative précédemment décrite. Soit j'adhère au galiléisme et l'âme, devenue irréductible à la physique, devient une pure énigme. Elle n'est pas étendue, elle n'a rien de matériel, elle n'a rien en commun avec la matière et pourtant elle est jointe au corps. Soit je tente de penser une continuité entre l'esprit et la matière. Mais je dois alors poser que les qualités vitales et subjectives existent à même l'ensemble des réalités physiques, y compris inorganiques. Il me faut donc admettre une continuité essentielle entre les êtres organiques et inorganiques et accepter que la pierre soit vivante, fût-ce à peine, fût-ce sourdement, fût-ce silencieusement. Diderot peut bien présenter cette option avec une ironie qui en facilite la transmission. Reste que sa philosophie de la nature est bien inspirée de l'hylozoïsme initié principalement par Maupertuis dans son essai sur la formation des corps. On peut dire que cette option, malgré son apparente extravagance, a durablement dominé les grandes constructions matérialistes de la modernité. En ce sens, c'est un point qui me frappe depuis longtemps, que de grands penseurs immanentistes ont à plusieurs reprises abouti, par souci de poser la pensée en continuité avec la matière, à ce que l'on peut nommer, une requalification de la matière, et même une subjectivation de la matière. Cela en contradiction complète avec l'enseignement anti-aristotélicien de la science moderne. Nietzsche ou Deleuze, par exemple, ont chacun à leur façon instillé dans les choses soit une volonté de puissance, soit une vie inorganique, c'est-à-dire dans les deux cas une instance subjective et qualitative échappant essentiellement à l'analyse scientifique vouée aux quantités. Cette tendance du matérialisme est si paradoxale qu'elle a progressivement rendu un tel matérialisme indiscernable de son opposé classique, à savoir le spiritualisme. Car dire que toute chose, même la matière, est esprit, spiritualisme d'un Leibniz ou d'un Bergson, pour le dire vite, ou dire que l'esprit est déjà en quelque mesure présent dans la matière, hylozoïsme de Diderot, mais je crois aussi de Deleuze, c'est sur le fond dire à peu près la même chose. Et l'on ne s'étonne plus dans cette perspective qu'un philosophe tel que Deleuze ait pu avoir parmi ses auteurs de prédilection aussi bien Nietzsche que, précisément, Bergson ou Leibniz. Donc, première solution, penser le lien des qualités subjectives à la science galiléenne en inventant une matière non galiléenne, car elle-même qualitative et subjective. Or, même si on passe outre le caractère étonnant de cette thèse, on bute, quand on la soutient, sur des difficultés si considérables que je ne vois pas comment les surmonter efficacement. L'une d'entre elles est la rupture paradoxale du matérialisme et de la science. C'est-à-dire que le matérialisme cesse d'être tout à fait l'ami de la science et que le matérialisme est contraint d'inventer ce que j'appellerais une matière du matérialisme, c'est-à-dire une matière qualitative échappant à ce que peut en dire la science. L'autre problème, c'est un problème plus précis, c'est qu'il est très difficile de penser le vivant sans l'unité organique, parce que le vivant nous semble lié à la possibilité d'une division ou d'une atteinte de son représentant matériel qui peut la détruire. Il est extrêmement difficile de penser ce que peut être cette unité pour une matière inorganique, ou il est extrêmement difficile de penser une vie qui ne soit pensée sans aucune unité organique, comme pure multiplicité intensive par exemple. La seconde option cohérente qui s'ouvre au matérialisme anti-nihiliste me semble alors consister purement à nier purement et simplement qu'il existe une sphère subjective qualitative et de ce fait impossible à réduire par une étude purement objective et quantifiable. Comme on peut s'y attendre, c'est dans le domaine de la psychologie, c'est-à-dire dans le domaine d'une science de l'esprit, que nous allons rencontrer les versions les plus radicales de cet anéantissement de la conscience comme de ses expériences qualitatives. Un problème récurrent que va rencontrer toute psychologie scientifique, va en effet consister dans le caractère à la fois qualitatif et privé des expériences subjectives. Alors que la science héritière du galiléisme repose sur l'observation publique de faits quantifiés, la conscience se donne comme une suite d'expériences qualitatives intuitionnables seulement à la première personne. Moi seul peux ressentir ma douleur, ma sensation de rouge, ma mélancolie, etc. Plutôt que d'admettre qu'il y a là une réalité irréductible à une science rigoureuse, certains psychologues d'obédience matérialiste vont être tentés de nier l'existence de l'entité conscience. À l'exemple de Watson, le fondateur du behaviorisme, qui écrira en 1925, dans un ouvrage intitulé précisément le behaviorisme, le behavioriste, ou le comportementaliste, tient que la croyance dans l'existence de la conscience nous ramène aux temps anciens de la superstition et de la magie. Alors on pourrait s'attendre à ce que ce genre de position extrême ait disparu en même temps que le paradigme behavioriste s'est effondré dans le champ de la psychologie, au profit notamment du paradigme fonctionnaliste et cognitiviste. Le paradigme cognitiviste, en effet, a restauré la légitimité d'une étude des processus mentaux et ouvert la boîte noire des behavioristes. Pourtant, comme on va le voir, le matérialisme propre à de nombreux psychologues cognitivistes ne va pas tarder à retrouver la même impasse que tout matérialisme classique et avec notamment Daniel Dennett, aboutir à une négation des qualia, des expériences qualitatives de la subjectivité. Le cognitivisme soutient, pour le dire très rapidement, qu'on peut et qu'on doit ouvrir la boîte noire behavioriste pour comprendre le comportement d'un sujet, et que cela peut être fait sans en revenir aux incertitudes de la méthode introspective. Car des processus mentaux tels que le calcul ou la reconnaissance visuelle peuvent être simulés par des programmes informatiques par lesquels des hypothèses sur le fonctionnement de l'esprit peuvent être testées, indépendamment de la question de savoir quelles sont les réalités matérielles, physiques, neurophysiologiques qui, dans le cerveau, supportent effectivement de tels processus. Un des problèmes que rencontre pourtant le cognitivisme réside dans son incapacité, semble-t-il, à rendre compte de ce que l'on nomme usuellement les qualia, c'est-à-dire les caractéristiques qualitatives de l'expérience consciente. Le cognitivisme semble en effet incapable de penser la différence entre un automate, entre une machine dont la programmation rendrait le comportement indiscernable de celui d'un humain, mais qui n'éprouverait aucun sentiment ni aucune sensation, et un humain pourvu d'une vie intérieure riche et diversifiée. On peut bien poser comme une sorte d'idéal régulateur du cognitivisme la production d'un programme capable de simuler en tout point le comportement humain ou animal, par exemple un programme capable de déceler les meilleurs crus dans les vins qu'on lui présenterait, à l'exemple du plus compétent des œnologues, mais on ne voit pas en quoi cette simulation d'un comportement permettrait à un programme d'éprouver réellement la sensation des vins. On ne sait pas à quoi ressemblerait une programmation informatique qui, par exemple, intimerait à une machine d'avoir mal aux dents. Certains philosophes, tels Thomas Nagel, ont ainsi pu soutenir qu'un aspect essentiel de l'esprit, ce qui de celui-ci ne peut être connu qu'à la première personne, mes sensations propres, les teneurs originales de mon existence propre, que ceci échapperait toujours à la psychologie scientifique. Face à cette thèse, certains cognitivistes ont alors soutenu une thèse radicale consistant à nier l'existence des qualia. L'un des plus connus d'entre eux est Daniel Dennett, qui dans son livre intitulé « La conscience expliquée » intitule l'un de ses chapitres « Les qualia disqualifiés ». La thèse de Dennett est la suivante. Il s'agit de récuser l'idée qu'il existerait au sein de la conscience des données pures, antérieures à toute opération de jugement, et donc inaccessibles à la simulation informatique. Ces données, les qualia, sont en fait déjà pétries de théories, selon Dennett, et il est impossible au sujet conscient de distinguer en lui les qualia sur lesquels peuvent éventuellement porter ces jugements, de ces jugements eux-mêmes. L'exemple maintenant fameux que donnait Dennett est celui du goût de la bière, dont les buveurs expérimentés soutiennent qu'il ne s'acquiert que progressivement, car la bière ne peut être réellement appréciée qu'avec le temps. La question de Dennett est alors la suivante. Tâchez donc de déterminer si c'est le goût même de la bière qui a évolué avec le temps, ou votre jugement qui a évolué à propos d'un goût qui est resté le même. Se mettre à apprécier ce breuvage résulte-t-il du changement de votre goût pour la bière, ou du changement du goût de la bière elle-même pour votre palais désormais exercé? Pour Dennett, il est impossible de répondre à cette question par l'introspection, preuve selon lui que nous sommes incapables d'accéder à un donné qualitatif originaire. Selon lui, au contraire, toute réalité consciente est le résultat de traitement de l'information complexe, accessible en droit à l'analyse fonctionnelle. On aboutit ainsi, quoique selon des versions différentes, chez Watson comme chez Dennett, à une sorte de solipsisme inversé. Au lieu de soutenir que le monde objectif se réduit à la représentation subjective que j'en ai, le matérialisme behavioriste ou éliminatif, c'est-à-dire qui élimine les qualia, réduit la sphère subjective et qualitative à un ensemble de procès objectifs et quantifiables, où les teneurs de notre intimité sont réduites à une simple illusion pré-scientifique. Le problème de ce solipsisme inversé, qui me vide de mon intimité au profit de la quantité objective du monde, le problème de ce solipsisme inversé, donc, c'est que, comme le solipsisme, personne ne parvient à y croire vraiment, mais qu'au contraire du solipsisme, chacun est en mesure de démontrer en son fort intérieur qu'il est évidemment faux. Autant il est difficile de réfuter le solipsisme et de démontrer qu'il existe un monde extérieur à mes représentations, autant il semble aisé de se démontrer au moins à soi-même qu'on n'est pas un pur automate, mais qu'il existe une sphère phénoménale incontestable. Que cette phénoménalité de la vie intime soit pétrie de traitements inconscients de l'information ne change rien à son indéniable existence, au moins à titre d'apparence. Dennett écrit ainsi une phrase où éclate l'extraordinaire difficulté de sa thèse. Je vous la cite. « Il semble y avoir de la phénoménologie, mais il ne s'ensuit pas de ce fait indéniable et universellement attesté qu'il y ait vraiment de la phénoménologie. » C'est le point crucial. Dennett veut par là soutenir que sous la continuité apparente des phénomènes conscients, existe une multitude d'événements inconscients impossibles à réduire à une conscience centralisatrice. Pascal Angèle, qui commande ce passage, fait pourtant lui-même remarquer le caractère auto-réfutant de ce passage. Dire qu'il semble y avoir de la phénoménologie, c'est comme dire il apparaît qu'il y a des apparences, mais il n'y a pas d'apparence. Thèse qui, de plus, ne nous permettrait pas de comprendre en quoi, dit Angèle, il y aurait la moindre différence entre nous et des zombies. Et d'ailleurs, c'est ce que Dennett écrit. Il écrit « Nous sommes tous des zombies ». Et il ajoute « Ce serait une preuve de malhonnêteté désespérée que de citer cette phrase en dehors de son contexte ». Mais il me semble que tout le contexte invite précisément à comprendre cette phrase littéralement. Alors je me suis un peu attardé sur l'illozoïsme et l'éliminativisme parce qu'il me semble que ces deux positions extrêmes ont l'intérêt de montrer de façon très cohérente et conséquente les difficultés d'un matérialisme cohérent pour concilier la légitimité de la science galiléenne avec l'existence d'une subjectivité qualitative. Bien sûr, beaucoup d'autres voies ont été tentées, le sont toujours, pour concilier dans une perspective immanentiste qualité subjective et formalismes objectifs. Mais il me semble que les seules façons d'être cohérents pour un matérialiste, c'est-à-dire de ne pas se cacher l'ampleur du problème et de se donner pour tâche de le résoudre positivement, ne peut consister qu'à nier l'un des deux termes inconciliables, la vérité de la science galiléenne ou l'existence des qualia. Le matérialisme, à mon sens, face au galiléisme, est inévitablement porté vers deux écueils symétriques. Soit le matérialiste doit nier la vérité du galiléisme et soutenir que même les pierres sont en vie, soit le matérialiste doit souscrire pleinement au galiléisme et nier qu'il est lui-même un vivant, pour se penser comme un automate. Soit nier la science et vivifier les pierres, soit nier la conscience et zombifier les hommes. Soit récuser le galiléisme et soutenir que les pierres souffrent en silence, soit récuser les qualia et soutenir que nous sommes tous morts intérieurement. Face à ces deux écueils, je crois que le matérialisme a intérêt à soutenir et la vérité du galiléisme et la réalité des qualia, comme de la sphère subjective en général. Par vérité du galiléisme, j'entends le fait que, comme Descartes, on soutient que la nature est réductible à ce que peut en dire la science moderne et qu'on ne perd donc rien d'essentiel à en exclure les qualités sensibles. Mais ces qualités elles-mêmes, subjectives et non objectives, on doit poser qu'elles sont pleinement réelles et inéliminables. Or, pour soutenir ces deux thèses à la fois, on comprend maintenant que la seule solution paraît bien être la suivante. Il nous faut rejeter le présupposé commun au matérialisme illozoïste et au matérialisme éliminatif, à savoir la fausseté du surgissement ex nihilo. Il nous faut en effet soutenir que les qualia n'existaient pas antérieurement, à l'existence du vivant, à l'apparition du vivant, contre l'illozoïsme donc, mais qu'ils ont effectivement surgi d'une matière qui ne les contient en rien, contre l'éliminativisme. Il faut donc montrer qu'il existe une façon rationnelle de penser le surgissement de la sphère subjective, qualitative, à partir d'une matière rigoureusement dépourvue de toute conscience, de toute vie, de toute expérience des qualia. Pour le dire autrement, il faut démontrer qu'on peut rationaliser la notion de surgissement ex nihilo, en sorte de supprimer l'apparence de mystère qui veut que les qualia inhérents à l'expérience des vivants aient, dans le passé, émerger d'une matière dont on postule qu'elle n'y prouvait rien. Et cela doit en passer par une recompréhension du temps qui permette de rendre intelligible l'idée de surgissement pur. Et je vais donc passer à la tentative de rationalisation du surgissement ex nihilo. Pour traiter ce problème, je vais faire un détour par un autre problème, bien connu, et dont vous allez voir rapidement qu'il recoupe notre question présente, à savoir le problème de Hume. En quoi consiste ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le problème de Hume et quel est son rapport à la question qui nous occupe? Classiquement formulé, ce problème s'énonce ainsi. Est-il possible de démontrer que des mêmes causes s'ensuivront à l'avenir, les mêmes effets, toutes choses étant égales par ailleurs, ceteris paribus? En d'autres termes, peut-on établir que dans des circonstances exactement identiques, les successions phénoménales futures seront identiques aux successions présentes? La question que pose Hume concerne donc notre capacité à démontrer que les lois physiques demeureront à l'avenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Quelle fut la réponse de Hume à sa propre énigme? Sa réponse, on le sait bien, fut la suivante, et elle est sans ambiguïté. Nous ne pouvons tout simplement pas établir par un raisonnement quel qu'il soit une telle stabilité future des lois naturelles. En effet, nous n'avons à notre disposition que deux moyens d'établir la vérité d'une existence ou d'une inexistence. L'expérience, d'une part, le principe de non-contradiction, d'autre part. Or, aucun de ces deux moyens ne peut nous permettre de démontrer la nécessité de la connexion causale. L'expérience peut nous renseigner sur le présent ou le passé, non sur l'avenir. Elle peut nous dire que telle loi existe ou se vérifie, telle qu'elle a existé ou s'est vérifiée dans le passé, mais elle ne peut établir qu'elle sera encore vérifiée dans l'avenir. Quant au principe de non-contradiction, il nous permet d'établir a priori, sans le recours à l'expérience, qu'un événement contradictoire est impossible, qu'il ne peut exister ni aujourd'hui ni demain. Mais il n'y a rien de contradictoire, selon Hume, dans le fait de concevoir que les mêmes causes engendreront demain des effets différents. Au-delà de la nécessité causale, c'est ce que Leibniz nommait le principe de raison, qui est ici défié. Selon un tel principe, en effet, toute chose doit avoir une raison d'être ainsi plutôt qu'autrement. Mais ce que nous dit Hume, c'est qu'une telle raison, dans le cas présent, est tout à fait inaccessible à la pensée. Car puisque nous ne pouvons établir que les lois doivent demeurer ce qu'elles sont, nous ne pouvons établir la nécessité d'aucun fait. Tout au contraire, au vu des seules exigences de la logique et de l'expérience, tout pourrait sans raison devenir autre qu'il n'est, processus naturel aussi bien que chose ou événement. Rien ne s'avère avoir de raison d'être et de perdurer à l'identique. Maintenant, quelles ont été ou quelles semblent pouvoir être les principales réponses à un tel défi? Il me semble qu'on peut distinguer trois types de solutions ou de tentatives de solutions. Une solution métaphysique, une solution sceptique qui est celle de Hume lui-même, une solution transcendantale. Une réponse métaphysique à la question de Hume consisterait à démontrer l'existence d'un principe nécessaire gouvernant notre monde. On pourrait procéder à la façon d'un disciple de Leibniz. On tenterait de démontrer l'existence d'abord d'un être nécessaire, parfait, puis on tenterait d'en inférer le fait qu'un tel être nécessaire, qu'un tel Dieu parfait, n'a pu créer que le meilleur des mondes possibles, le nôtre. L'éternité de notre monde, ou du moins des principes qui le régissent, serait gagée sur l'éternité de la perfection et divine elle-même. Ce serait une démonstration qu'on peut dire directe de la nécessité causale et inconditionnelle. Je démontre positivement qu'existe un Dieu absolu et j'en déduis que ce monde, produit par ce Dieu infiniment parfait, doit demeurer tel qu'il est à l'avenir, comme aujourd'hui. La réponse sceptique est celle de Hume lui-même. Hume, en effet, ne se contente pas de disqualifier toute possibilité de réponse à sa question. Il modifie la question elle-même en sorte de la remplacer par un problème qui, cette fois, admet une solution. Puisqu'on ne peut démontrer la nécessité de la connexion causale, il faut cesser de se demander pourquoi les lois sont nécessaires et se demander plutôt d'où vient notre croyance en la nécessité des lois. C'est un déplacement crucial en ce qu'il consiste à remplacer une question sur la nature des choses mêmes par une question sur notre rapport aux choses. On ne demande plus pourquoi les lois sont nécessaires, mais pourquoi nous sommes convaincus qu'elles sont nécessaires. La réponse de Hume à cette question reformulée tient en un mot, l'habitude ou encore l'accoutumance. Lorsqu'un fait se répète, il provoque en nous de façon spontanée un sentiment d'accoutumance dont procède la certitude qu'il en ira de même ainsi à l'avenir. C'est une telle propension à croire en la répétition à l'identique de ce qui s'est déjà répété qui gouverne l'ensemble de notre rapport à la nature. Enfin, troisième type de réponse, la réponse transcendantale de Kant. Plus précisément, la déduction objective des catégories développée dans l'analytique des concepts de la critique de la raison pure. La déduction est sans doute un des passages les plus difficiles de la critique, mais son principe, je crois, est assez compréhensible. Il est important que je vous l'expose, car j'aurai à y revenir tout à l'heure, vous verrez pourquoi. L'investigation transcendantale consiste à proposer, dirais-je, une démonstration indirecte de la nécessité causale. c'est-à-dire une démonstration par l'absurde. La démarche générale de Kant, je crois, est la suivante. On suppose qu'il n'y a effectivement aucune sorte de nécessité causale, et on examine ce qui en résulterait. Or, ce qui en résulterait, selon Kant, c'est tout simplement la destruction de toute forme de représentation. Le chaos serait tel qu'aucune objectivité, et même aucune conscience, ne pourrait subsister durablement. Dès lors, Kant peut considérer que l'hypothèse de la contingence des lois est réfutée par le fait de la représentation. Sa réponse est donc conditionnelle. Kant ne dit pas qu'il est absolument impossible que la causalité cesse de régir le monde à l'avenir. Il dit qu'il est impossible qu'un tel événement se manifeste. Et cela parce que si la causalité cessait de régir le monde, plus rien n'aurait de consistance et donc plus rien ne serait représentable. Le fait même qu'il y ait représentation vaut donc démonstration de la nécessité des lois. Aussi différente soit-elle en apparence, je voudrais maintenant souligner le postulat commun à ces trois réponses, ou à ces trois types de réponses au problème de Hume. Le point commun de ces solutions, c'est que toutes considèrent comme un point acquis la vérité de la nécessité causale. La question n'est jamais posée de savoir s'il existe effectivement une nécessité causale, mais seulement de savoir s'il est possible ou non de démontrer une telle nécessité supposée vraie. Cette nécessité est considérée comme une évidence jamais remise en cause. C'est manifeste, bien sûr, dans le cas des solutions métaphysiques et transcendantales, puisque ces deux solutions consistent à démontrer une telle nécessité. Mais Hume, lui non plus, ne doute jamais de la vérité de la nécessité causale. Il doute seulement de notre capacité à démontrer cette nécessité par les voies de la raison. C'est-à-dire qu'il doute de notre capacité à comprendre les raisons d'une telle nécessité, en elle-même jamais réellement remise en cause. On voit donc que ces trois démarches, quoique conduisant à des solutions très différentes et même en apparence opposées, partent toutes d'un même postulat. La nécessité causale est un fait incontestable. Mon point de départ consiste à ne pas admettre un tel présupposé commun à ces trois thèses et à laisser sa chance à une quatrième option, ni métaphysique, ni sceptique, ni transcendantale, option, on verra pourquoi, que je nomme spéculative. En quoi consiste la réponse spéculative au problème de Hume? Tout simplement en ceci. Au lieu d'affirmer comme Hume que la raison est incapable de démontrer a priori la nécessité des lois, on se propose d'affirmer que la raison, tout au contraire, nous dévoile a priori de la contingence des lois. On propose en somme de faire confiance à l'a priori, tel que défini par Hume, et non tel que défini par la métaphysique classique, disons par Leibniz. Quelle est en effet la différence principale entre ces deux types d'a priori? Il me semble que la différence essentielle réside dans le fait que pour Leibniz, il existe deux principes régissant la raison. Le principe de non-contradiction et le principe de raison. Principe qui, comme je l'ai dit, veut que toute chose ait une raison nécessaire d'être ainsi plutôt qu'autrement. Mais il me semble que l'a priori de Hume, lui, est plus restreint. Il ne comprend que le principe de non-contradiction, à titre de principe régissant nécessairement toute chose. C'est un a priori dépourvu du principe de raison. C'est une raison, en somme, encore pourvue de la nécessité logique, donc une raison, mais dépourvue de toute nécessité physique ou métaphysique. À l'aune d'un tel a priori restreint, on ne peut en rien démontrer la nécessité qu'existe un être ou un monde non-contradictoire plutôt qu'un autre être ou un autre monde également non-contradictoire. On ne peut interdire que l'inconsistance logique, mais quant à ce qui est consistant, tout s'avère avoir le même droit à exister. Mon propos consiste à réinterpréter la valeur de l'a priori humien, c'est-à-dire à dessiner une autre image de la pensée que celle que Hume propose. Au lieu de dire en effet que cet a priori restreint manifeste l'insuffisance de la raison, son ignorance essentielle des principes ultimes, je propose de prendre au sérieux ce que nous transmet une telle raison émancipée du principe de raison. Une raison émancipée du principe de raison, c'est-à-dire que toute chose, toute loi, tout monde peut effectivement se modifier sans raison aucune, donc un pur chaos, indifférent à toute nécessité causale, sous-tend la réalité, que celle-ci soit une chose, une loi ou un monde. En somme, je désire vous faire prendre au sérieux le fait qu'il n'y a rien d'impossible à ce que la pensée, au travers du problème de Hume, ait toujours eu en quelque sorte sous le nez le principe que la métaphysique plaçait au contraire dans le principe de raison. Car la question que je pose est la suivante. Pourquoi refusons-nous d'écouter la voix de l'a priori lorsqu'un tel a priori annonce une thèse somme toute limpide sur l'être de toute chose, à savoir, logiquement, rien n'a de raison d'être. Tout peut effectivement se modifier sans raison, même les lois, et l'apparence phénoménale qui nous manifeste une constance des lois physiques est une apparence trompeuse. Car c'est bien l'expérience qui nous fait croire en la constance des lois, et non la raison. Qu'est-ce qui nous empêche, autrement dit, d'adhérer à un platonisme renversé, mais pas renversé, disons, à la façon de Nietzsche? Pour simplifier grossièrement, on peut dire que le renversement nietzschéen de Platon consistait à prendre le parti du devenir phénoménal contre les arrière-mondes constitués d'idéalités fixes. Le renversement que je voudrais vous soumettre est différent. Il consiste à prendre parti pour le chaos purement intelligible de toute chose contre la fixité illusoire du phénomène. En effet, selon moi, au contraire de ce que suppose aussi bien Nietzsche que Platon, c'est le monde sensible qui est du côté de la fixité et l'intelligible qui est du côté du devenir le plus radical. Car le phénomène est régi apparemment par des lois fixes, alors que l'a priori jungien, restreint, nous permet de concevoir de façon purement intellectuelle une modification radicale et irraisonnée des lois elles-mêmes. La solution que je propose au problème de Hume, c'est de dire que nous ne pouvons démontrer la nécessité des lois, non parce que la raison serait trop limitée pour être capable d'une telle démonstration, mais parce que cette nécessité, la raison et non la sensibilité, nous en découvre le caractère essentiellement illusoire. Et déchirant le voile des phénomènes, la pensée nous conduirait jusqu'à la racine du temps, c'est-à-dire jusqu'à l'essence à la fois logique et chaotique du devenir possible de toute chose. La question est donc la suivante. Pourquoi pas une telle solution au problème de Hume? Qu'est-ce qui, au juste, y fait obstacle? Alors, ce qui y fait avant tout obstacle, c'est là l'intérêt de l'affaire, c'est la déduction transcendantale de Kant, sur laquelle je dois maintenant, brièvement, revenir. En effet, l'argument de Kant, aussi élaboré soit-elle dans son détail, me paraît en parfaite continuité avec ce qu'on pourrait appeler l'argument de bon sens contre la thèse que je propose de la contingence des lois naturelles. En effet, qu'est-ce qui nous fait considérer spontanément comme absurde la possibilité d'un changement sans raison des constantes physiques? La possibilité que d'un instant à l'autre, cette bouteille se transforme en licorne ou que cette table s'envole dans les airs. Qu'est-ce qui nous fait considérer comme absurde une telle possibilité posée comme réelle? Eh bien, il nous semble qu'une telle hypothèse est absurde parce que si les lois pouvaient se modifier sans raison, de façon purement chaotique, cela se saurait. Or, il y a bien un raisonnement précis à l'origine du « cela se saurait ». Et il y a même un raisonnement qu'on peut dire mathématique. Et c'est ce même raisonnement qui, je crois, soutient l'argumentation de la déduction kantienne. En effet, soutenir que la contingence des lois est absurde parce que si tel était le cas, nous l'aurions depuis longtemps constaté, c'est mettre en œuvre un raisonnement par l'absurde qui s'appuie sur le concept de fréquence. L'argument de bon sens consiste à soutenir que la contingence des lois imposerait leur modification fréquente, suffisamment fréquente pour que nous puissions la constater à coup sûr dans l'expérience quotidienne. Or, l'argumentation kantienne consiste simplement, me semble-t-il, à exacerber une telle argumentation fréquentielle jusqu'à soutenir ceci. Si les lois étaient contingentes, elles changeraient si fréquemment, si frénétiquement pour tout dire, que nous n'aurions jamais eu l'occasion de savoir quoi que ce soit. Et cela parce qu'aucune des conditions d'une représentation stable de l'objet n'aurait pu se constituer. Rien qui ressemble de près ou de loin à un sujet transcendantal. Bref, si la connexion causale était contingente, nous le saurions si bien que nous ne saurions plus rien. Cet argument, je l'appellerai l'argument nécessitariste. Il consiste toujours à inférer de l'hypothèse de la contingence des lois la nécessité de leur changement fréquent et à conclure de là que les lois doivent être nécessaires puisque la thèse contraire conduit à une contre-vérité manifeste. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'ordre, nous ne sommes pas. Or, on s'aperçoit qu'un tel raisonnement tire sa source d'un calcul implicite. Il me semble qu'il y a un calcul, la source même, de la déduction transcendantale. C'est en effet un calcul probabiliste qui sous-tend la logique de l'inférence. L'argument nécessitariste ne peut passer de la notion de contingence à la notion de modification fréquente que parce qu'elle présuppose qu'il serait extraordinairement improbable que les lois demeurent constantes alors qu'elles peuvent se modifier à tout instant, en tout sens. Et quand je parle d'improbabilité, je ne veux pas dire que cela serait simplement invraisemblable ou non plausible, peu crédible parce que trop inusuel. Non, je parle bien de probabilité mathématique. Alors, tentons de formuler rigoureusement la nature de cette argumentation. Je me suis inspiré pour ce faire des analyses d'un petit livre de Jean-René Verne intitulé « Critique de la raison aléatoire » qui démontre que le raisonnement de Hume, mais aussi je crois de Kant, repose sur une argumentation probabiliste implicite, qu'on peut reconstituer de la façon suivante. Commençons par nous donner un ensemble d'événements configurés, de telle sorte qu'il n'y ait a priori aucune raison pour que l'un d'entre eux se produise plus tôt qu'un autre. Tel est le cas d'une pièce ou d'un dé, supposé parfaitement homogène et symétrique, et donc nous pouvons supposer a priori que l'une de leurs faces n'aura pas plus de raisons d'apparaître, après un jet supposé non biaisé, que n'importe quelle autre face. Lorsqu'armés de cette hypothèse, nous tentons de calculer nos chances pour qu'un événement se produise, tel ou tel résultat du jet de dé ou de la pièce. Nous admettons donc implicitement le principe a priori suivant. Ce qui est également pensable est également possible. C'est une telle égalité quantitative du pensable et du possible qui nous permet d'établir un calcul sur la probabilité ou la fréquence d'un événement lorsque nous jouons à un jeu de hasard. Parce que deux événements n'ont, dans certaines circonstances répertoriées, pas plus d'un plus proprement mathématique de raison d'arriver l'un plutôt que l'autre, alors je dois poser qu'ils ont positivement autant de chances de se produire effectivement. Mais supposons maintenant que le dé avec lequel nous jouons depuis une heure soit toujours tombé sur la même face. Nous nous dirions, en vertu même du principe suivant lequel des événements également possibles sont également probables, que cela a de très faibles chances d'être le résultat d'un hasard authentique. Une cause, par exemple une bille de plomb cachée dans le dé, penserons-nous alors, doit être à l'œuvre qui nécessite ce résultat unique. Or, supposons maintenant que le dé avec lequel nous jouons tombe sur la même face, non pas depuis une heure, mais depuis une vie entière, et même depuis mémoire d'homme. Supposons que ce dé de surcroît n'est pas six faces, mais des millions, des trillions de faces. Eh bien, nous retrouvons la situation de Hume ou Kant devant la constance des lois physiques. Pour chaque événement donné dans l'expérience, je conçois a priori de très nombreuses successions empiriques différentes, non contradictoires, donc également pensables. Toutes me paraissent également possibles à l'aune de la seule logique, parce qu'également consistante. Mais, dans l'expérience réelle, nous tombons toujours sur le même résultat, c'est-à-dire sur les mêmes effets résultant des mêmes causes. Lorsque Hume et Kant admettent comme allant de soi la nécessité des lois, ils raisonnent exactement, à mon sens, comme un joueur devant un dé pipé, en tenant implicitement pour valide l'inférence mise au jour par Verne. Si les lois étaient effectivement contingentes, il serait aberrant au regard des lois de la probabilité que cette contingence ne se soit jamais manifestée. Il doit donc y avoir quelque chose qui truque le résultat. Il doit y avoir une raison nécessaire, mais cachée, comme il doit y avoir une bille de plomb nichée dans le dé, capable d'expliquer la constance du résultat. Ce principe, on peut l'appeler providence, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler matière. En tout cas, il est extra-logique, il est extra-mathématique. Il ne peut pas être lié à une nécessité mathématique, logico-mathématique, ça doit être quelque chose de lié à une nécessité physique. Le principe implicite qui régit l'argument nécessitariste nous apparaît alors clairement. Celui-ci consiste à étendre le raisonnement probabiliste que le joueur applique à un événement interne à notre univers, le G, du D et son résultat, à notre univers lui-même. Je m'explique. On peut reconstituer ainsi son raisonnement. Je fais de notre univers physique un cas parmi une immensité d'univers pensables, mais régis par des lois physiques différentes. Des univers où les choses, au lieu d'obéir aux lois qui régissent notre propre univers, réagissent selon des constantes, des physiques différentes. Je construis mentalement un univers D, identifié à un univers des univers, dont chaque face serait un univers régi par le seul impératif de la non-contradiction et régi à chaque fois par des lois physiques différentes. Puis, pour une situation donnée dans l'expérience, je fais rouler ce dé dans mon esprit, je pense aux suites concevables de l'événement, mais à la fin, je constate que c'est toujours le même résultat. Il y a donc quelque chose qui truque le résultat. Ce doit être une réalité de type physique, une nécessité de type physique. L'argument nécessitariste est un argument probabiliste appliqué non pas à un événement de notre univers, mais à notre univers en sa totalité, considéré comme le cas possible d'un tout des univers possibles, d'un univers D. Ce qui signifie que le nerf de l'argumentation consiste à constater l'incommensurabilité numérique du possible concevable et du possible expérimentable, du possible inhérent aux lois physiques de notre monde et du possible inhérent à la seule loi logique de la non-contradiction. On voit maintenant clairement quel est l'enjeu de la discussion. Il suffirait de montrer en quoi l'implication fréquentialiste est illégitime, en quoi l'implication nécessitariste que je viens de vous expliquer est illégitime, pour établir à contrario la possibilité d'un changement stable et pourtant non régi par une nécessité physique. Si ce raisonnement, on le disqualifie, ça veut dire que, contrairement à ce que dit ce raisonnement, je ne suis pas contraint d'inférer de la contingence des lois physiques l'instabilité des lois physiques. Donc je suis en droit de poser que les lois physiques sont contingentes, quoique stables. Si je suis en droit d'établir cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en droit de dire qu'il est rationnel de postuler que de n'importe quelle situation A, n'importe quelle situation B peut en résulter qui soit également non contradictoire. À l'intérieur de cette possibilité, évidemment, il y a le surgissement ex nihilo. C'est-à-dire que le surgissement ex nihilo, dans cette perspective, cesse d'être plus étonnant que n'importe quelle séquence temporelle. Qu'il y ait surgissement ex nihilo ou qu'il n'y ait pas surgissement ex nihilo, nous sommes dans les deux cas, dans la succession temporelle A puis B. Cette succession temporelle est dans les deux cas non contradictoire, elle est également rationnelle. Aucune des deux n'est plus étonnante, plus irrationnel que l'autre. La question est donc de savoir comment disqualifier l'argument nécessitariste ou l'implication fréquentialiste que je viens de décrire. Alors, à cette objection probabiliste, il faut bien voir qu'il existe une réponse bien connue. Cette réponse bien connue, on peut la nommer la réponse épicurienne. En quoi consiste-t-elle ? Elle consiste à remarquer que toute configuration produite par le hasard, aussi improbable soit-elle en apparence, devient concevable dès lors qu'on suppose un nombre d'essais aussi grand que désiré. De même, en effet, qu'une coïncidence dans un jeu de hasard, aussi étonnante soit-elle en apparence, devient concevable comme le résultat d'une combinaison purement aléatoire si l'on se donne un nombre de parties suffisamment élevé, de même l'ordre du monde pourrait être considéré comme le résultat d'une combinaison purement hasardeuse d'événements sans relation nécessaire les uns aux autres. Combinaison supposée pourtant capable de produire à partir d'un nombre immense de tentatives chaotiques la stabilité que nous constatons dans l'univers. Tout l'enjeu consiste pour moi à élaborer un concept de la contingence capable de récuser l'objection fondée sur l'existence d'un ordre stable de la nature, mais capable de récuser aussi bien la réponse épicurienne à cette objection que je viens de vous exposer, en dégageant le présupposé commun à ces deux positions et en se donnant les moyens d'en démontrer le caractère contestable. Alors je dois dire quelques mots de la réponse épicurienne à l'énigme de l'ordre mondain et vous montrer en quoi cette réponse n'est pas satisfaisante. Alors, si j'adoptais la théorie épicurienne du temps, je soutiendrais ce qui s'apparente sans doute à une banalité. Je reviendrais au matérialisme classique. Je dirais à peu près ceci, il existe un ensemble de possibles logiques, un univers de mondes possibles non contradictoires, comparable à ceux qui composent l'entendement du dieu de Leibniz. Mais au lieu de soutenir comme Leibniz que le principe d'actualisation d'un de ces mondes doit en passer par le choix fait par Dieu du meilleur des mondes, on soumettrait ces mondes à un principe d'émergence aléatoire. Si je ne peux adopter une telle compréhension du devenir, c'est pour une raison simple. Le hasard ne peut pas être un bon concept pour penser la variation possible des lois physiques, parce que le hasard n'est lui-même pensable, selon moi, que sous la condition d'une stabilité des lois physiques. Quand je lance un dé à plusieurs reprises, je ne peux établir une probabilité du résultat qu'à la condition que les lois physiques continuent d'assurer la chute et la cohérence du dé. Si les lois variaient de telle sorte que le dé se mette d'un lancer à l'autre une fois implosé, une autre fois multiplié ses faces par 1000, une autre fois s'envoler dans les airs, aucun pourrait se constituer. Le hasard présuppose toujours à un niveau ou à un autre un processus constant capable d'assurer un cadre stable à son effectuation. C'est d'ailleurs ce qu'on peut constater dans le cas du clinamen épicurien. Cette petite déviation aléatoire des trajectoires atomiques ne modifie pas les lois de la nature prescrites par Épicure, puisque celles-ci sont précisément la condition de son déploiement. Le clinamen ne détruit pas les atomes, il ne modifie pas leur forme spécifique, il ne comble pas le vide qui existe entre eux, etc. Il présuppose au contraire le maintien de ces lois physiques en sorte de pouvoir agir efficacement en leur sein. Il me faut donc élaborer un concept de contingence capable de contrer l'argument nécessitariste sans s'identifier lui-même à la notion de hasard. Il me faut élaborer un concept non aléatoire de la contingence capable de rendre pensable la stabilité phénoménale des lois physiques. Pour ce faire, il faut commencer par remarquer que cette implication n'est vraie que dans un cas très précis et selon une hypothèse ontologique singulièrement forte. Car cette hypothèse conjugue l'être du possible et l'être du tout. Ce raisonnement probabiliste n'est valable en effet qu'à la condition suivante, à savoir que le possible a priori, logique, soit pensable sur le mode d'une totalité numérique. Peu importe que cette totalité soit finie ou infinie, car l'infini n'est pas un obstacle à l'application des probabilités. Les probabilités dites continues nous donnent les moyens de calculer la probabilité qu'une corde supposée homogène se rompe en l'un de ses points, point supposé en nombre infini pour un objet continu, par suite d'une traction elle-même homogène appliquée à ses deux côtés. L'argument nécessitariste n'a pas besoin de déterminer le cardinal des possibles concevables pour fonctionner et demeurer légitime. Plus le nombre de ces possibles concevables est supposé excéder le nombre des possibles expérimentés, plus l'aberration probabiliste sera forte. Mais il faut en revanche, pour que l'inférence probabiliste soit légitime, que soit remplie une condition, qui, elle, est incontournable. C'est qu'il y ait bien une totalité de possibles concevables. Il faut supposer qu'un ensemble de mondes possibles, notre univers D de tout à l'heure, est effectivement concevable, sinon intuitionnable, au sein duquel nous pourrons alors opérer notre extension du raisonnement probabiliste des objets internes de notre univers, le D, la corde, à l'univers lui-même. Car la condition pour qu'un raisonnement probabiliste soit pensable, c'est que soit pensable une totalité de cas au sein de laquelle puisse s'opérer un tel calcul des fréquences. Supprimer la notion d'ensemble des cas, l'idée d'un univers tout dont sont tirés les événements soumis à l'analyse, et le raisonnement aléatoire devient vide de sens. Car on ne peut produire de calcul sur la fréquence supposée d'un événement qu'à la condition d'avoir déterminé un univers de cas, une totalité bornée, aussi vaste soit-elle, mais qui soit bel et bien totalisante. Le raisonnement aléatoire présuppose ainsi l'idée de totalité numérique. Lorsque la totalité est interne à notre univers, celle-ci nous est donnée dans l'expérience, de façon directe, un dé, une corde, ou indirecte, par le détour d'une observation des fréquences d'un phénomène donné. Mais lorsque j'applique le raisonnement probabiliste à notre univers en son entier, je présuppose, sans que rien dans l'expérience ne puisse par hypothèse le démontrer, qu'il est légitime de considérer que le concevable, le pur concevable a priori, constitue lui aussi une totalité de cas, un univers d'univers, un ensemble clos d'univers. Je fais une hypothèse mathématique sur le concevable, j'en fais un ensemble, aussi immense soit-il, j'en fais l'ensemble des mondes possibles. Or nous savons, nous qui venons après la révolution cantorienne de l'ensemblisme, que rien ne nous permet d'affirmer de la sorte que le concevable est nécessairement totalisable. Car l'événement que constitue la pensée de Cantor consiste notamment dans ce qu'on peut appeler la détotalisation du nombre, détotalisation dont l'autre nom est transfini. Alors qu'est-ce que le transfini en termes clairs? L'axiomatique standard des ensembles, progressivement élaborée dans la première moitié du XXe siècle à partir des travaux de Cantor, contient comme l'une de ses propriétés les plus remarquables la pluralisation inclôturable des quantités infinies. Intuitivement, ce que l'on nomme le théorème de Cantor énonce en effet ceci. Donnez-vous un ensemble quelconque, comptez ses éléments, puis comparez ce nombre au nombre des parties de cet ensemble, des regroupements possibles de ces éléments. Vous obtiendrez alors toujours le résultat suivant. L'ensemble B des parties d'un ensemble A est toujours plus grand que A, A fut-il infini. Alors je vais donner un exemple simple, susceptible de donner une idée approximative mais non inadéquate du théorème de Cantor. Un ensemble B est considéré dans l'axiomatique ensembliste comme une partie d'un ensemble A si tous les éléments de B appartiennent également à A. Prenons un ensemble comportant trois éléments, A. A égale 1, 2, 3. C'est-à-dire un ensemble dont le cardinal est 3. Soit B l'ensemble de toutes les parties de A. B qu'on note également P de A. Ensemble des parties de A. Alors, comptons les parties de A. Par là même, comptons les éléments de B. B contient d'abord les trois ensembles singletons 1, 2, 3. Ces parties de A, ce ne sont pas les éléments de A. Ce n'est pas 1, 2, 3, mais c'est l'ensemble qui ne contient que 1, l'ensemble qui ne contient que 2, l'ensemble qui ne contient que 3. Ce sont déjà les trois premiers éléments de B. Ajoutons-y les parties au sens le plus usuel, c'est-à-dire les ensembles qui contiennent deux des trois éléments de A, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Et enfin, ce qu'on appelle la partie maximale de A, qui est identique à A lui-même, 1, 2, 3. En effet, A est toujours partie de lui-même, puisque tous les éléments de A sont bien les éléments de A. Ça vérifie la définition de la partie. Il faudrait également ajouter à cette liste l'ensemble vide. L'ensemble vide est une partie universelle parce que il n'y a pas d'éléments du vide qui n'appartiennent pas à A. Le vide n'ayant pas d'éléments, il n'a pas d'éléments qui n'appartiennent pas à A, donc il est bien une partie de A. Voilà pour la subtilité. En gros, on voit qu'en comptant les parties de A, on obtient un cardinal supérieur au cardinal des éléments de A. C'est-à-dire que B contient 8 éléments, alors que A n'en contenait que 3. Bref, la force du théorème cantorien, c'est d'avoir généralisé ce débordement d'un nombre d'éléments par le nombre de ses regroupements. Chaque fois que vous avez et que vous vous donnez comme existant un ensemble, comptez ses parties, vous obtenez et vous êtes assuré de l'existence d'un ensemble qui aura plus d'éléments que ce premier ensemble parce qu'il sera composé des parties, des regroupements possibles du premier ensemble. On peut donc construire une suite illimitée, non pas simplement d'ensembles finis, mais d'ensembles infinis, car la théorie des ensembles pose l'existence d'un premier infini, et à partir de ce premier infini, et à l'aide notamment du théorème de Cantor, nous pouvons construire une succession de nombres cardinaux transfinis, car cette succession d'infinis plus grands les uns que les autres, on les appelle les nombres cardinaux transfinis, ou suite des alephes, et cette succession n'admet aucun achèvement, aucun bouclage. Il n'y a pas d'ensemble ultime, il n'y a pas d'ensemble de tous les ensembles. C'est-à-dire que c'est une succession d'infinités plus grandes les unes que les autres qui n'admet pas de recollection ultime. Il n'y a pas d'ensemble tout. Ce qui est tout à fait remarquable dans cette construction cantorienne, c'est que ce qui est énoncé comme impensable, c'est l'ensemble du concevable. Si l'on admet que le concevable, c'est ce qui est logiquement et mathématiquement concevable, et non pas donné dans l'expérience, eh bien, le concevable n'est pas totalisable. C'est-à-dire que le concevable nous interdit de poser qu'il est a priori assuré que l'afférence probabiliste précédente soit légitime. Et en somme, on pourrait dire que l'une des conséquences de la théorie des ensembles et du transfini cantorien, c'est une critique de la raison aléatoire, une critique de la raison probabiliste. En effet, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à Kant si on admet que Kant présuppose en vérité une inférence probabiliste, c'est-à-dire une application du raisonnement des probabilités à notre univers en sa totalité? Eh bien, on pourrait considérer qu'il a étendu illégitimement le raisonnement probabiliste au-delà de la seule sphère sensible. Car à partir du moment où nous ne pouvons pas être assurés qu'il existe a priori une totalité du concevable, nous devons restreindre le raisonnement probabiliste à des totalités constituées à l'aide de l'expérience, c'est-à-dire à des objets donnés dans l'expérience de façon directe ou indirecte. Nous ne devons pas étendre le raisonnement probabiliste hors de la physique pour l'appliquer en métaphysique et par là même produire des sophismes. La thèse que je propose est donc la suivante. Restriction de la raison aléatoire à l'intérieur de la sphère du sensible, disqualification de l'inférence probabiliste et par là même légitimation d'un temps dont la stabilité n'implique en rien la nécessité. Disjonction de la stabilité des processus physiques, en effet incontestable, et de la nécessité des lois physiques, en vérité critiquable. Alors je reviens pour finir, pour ne pas davantage déborder sur la question initiale qui a motivé ces analyses. La réconciliation, car je ne pense pas qu'ils aient jamais été amis, la réconciliation en vue de résoudre l'aporie du galiléisme, du matérialisme et du surgissement ex nihilo. Quelle a été la stratégie suivie pour tenter de répondre à cette impasse récurrente du matérialisme à concilier l'existence des qualia avec les succès de la science galiléenne? Mon propos a été le suivant. Tenter de montrer en quoi la thèse d'un possible surgissement ex nihilo des qualia à partir d'une matière non qualitative n'était pas une réponse simplement verbale à la difficulté. La possibilité du surgissement ex nihilo, en effet, doit être à mon sens posée dans la continuité du problème de Hume. D'une situation générale A, il n'y a jamais de raison absolue, de cause nécessaire, qui nous permette avec assurance de passer à une situation B. Tout passage de A à B, que ce passage respecte les lois physiques telles celles de la conservation de l'énergie, ou qu'il semble les rompre par l'émergence de qualités nouvelles, tout passage temporel d'une situation à une autre est également dépourvu de raison, et doit donc être livré à une science descriptive et explicative, mais non pas fondationnelle. Aucune succession temporelle n'est plus nécessaire qu'une autre, aucune n'est en droit plus étonnante qu'une autre, certaines sont plus régulières, d'autres plus irrégulières. Toutes sont des faits qu'il revient à la science ou à l'histoire, voire à la littérature, de décrire. Rien de ce qui est temporel n'est déductible, tout n'est que descriptible. En conséquence de quoi le surgissement ex nihilo de qualité subjective à partir de configurations matérielles déterminées, le fait, pour le dire vite, que certains agencements matériels et organiques produisent invariablement dans notre monde physique, sous condition que nos lois demeurent les mêmes, des teneurs conscientielles, cela cesse d'être spécifiquement mystérieux dès lors que l'on se donne un temps à la fois rationnel, en ce que logique est étayée par une argumentation philosophique, et non soumis à l'interdit lucrétien du surgissement pur. Il ne s'agissait donc ici que de faire saillir ce qui me paraît depuis longtemps une évidence, puisque le matérialisme doit concevoir l'émergence de la pensée à partir d'une matière strictement non pensante, le matérialisme est voué à élaborer une doctrine du passage ex nihilo de la non-pensée à la pensée, de la matière sourde et muette à la richesse de nos vies intérieures. Merci.
Alors, merci Quentin de cet exposé qui est une espèce de tour de force à la fois par la concentration et la condensation, la densité conceptuelle, et d'autre part par l'habileté avec laquelle le paradoxe est soutenu. Paradoxe au sens strict du terme, c'est-à-dire au sens où tu soutiens quelque chose qui est en opposition avec la doxa la plus commune, que ce soit celle du sens commun ou du bon sens philosophique ordinaire. Alors, étant donné que tu as distribué un, papier qui, en gros, résume les étapes essentielles de ton propos. Je ne vais pas le reprendre. Je rappellerai simplement que tu veux réconcilier, tu l'as ainsi insisté, le matérialisme et l'idée de surgissement ex nihilo, qui en effet, depuis le départ, tu viens de le dire, n'ont jamais été conciliés, tu veux donc les concilier, et tu veux montrer le paradoxe de la science. Tu montres dans un premier temps le paradoxe de la science moderne, et tu montres que loin d'aller dans le sens qu'aurait souhaité le matérialisme, il en est d'une certaine manière une réfutation, puisqu'il mène à quelque chose qu'on peut appeler le dualisme, c'est-à-dire que la mathématisation de la nature laisse la place vide pour un esprit doué au moins de la capacité à percevoir des qualités ou des qualia ou quelque chose d'irréductible au formalisme. Ça, c'est le premier temps. Et dans un deuxième temps, tu montres que en reformulant, alors je le signale pour ceux qui n'ont pas lu ton livre, parce que la partie qui est consacrée au problème de Hume est particulièrement bien développée et argumentée dans ton livre sur que j'ai cité tout à l'heure, qui est donc après la finitude kantienne, en quelque sorte, montrer que après la finitude, qu'y avait-il, c'est ce que tu montres, il y a la place pour une nouvelle philosophie spéculative, on dirait plus volontiers métaphysique, mais enfin tu l'appelles spéculative pour des raisons que tu exposes, c'est-à-dire dans lesquelles on repose le problème de Hume, le problème de la nécessité des lois de la nature, on montre qu'il y a une solution plus radicale encore que celle de Hume, c'est-à-dire que non seulement il n'est pas possible de fonder la nécessité de la relation causale, mais même que si on ne peut pas la fonder, c'est parce qu'elle est absolument non fondable, qu'elle n'est pas objective, et qu'il y a donc une contingence radicale des lois de la nature. Alors, de ces deux points, tu conclus qu'il est donc possible, en quelque sorte, de concilier une hypothèse absolument non spiritualiste, donc totalement matérialiste, avec l'idée d'une contingence radicale des lois. Et de cette contingence radicale des lois, tu conclus qu'il est possible, sans contradiction, car tu n'y as pas insisté, mais tu tiens au contraire vigoureusement, si tu démystifies le principe de raison suffisante, tu reconnais la validité nécessaire universelle du principe de contradiction, qu'il est possible sans contradiction de soutenir qu'il y a une succession temporelle dans laquelle quelque chose peut suivre de rien en particulier, puisque tout devrait en droit, du point de vue du monde intelligible, pouvoir suivre de quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est à peu près le propos général ? Alors, je voudrais d'abord te faire quelque chose qui est un peu une objection ou qui ressemble à une demande d'éclaircissement. Enfin, tu choisiras entre ces deux interprétations. Supposons, accordons le point que tu as établi dans ta troisième partie, critique de la raison aléatoire, et supposons que l'on t'accorde qu'en effet, les lois de la nature sont parfaitement contingentes. C'est le point que tu t'es efforcé de démontrer de façon circonstanciée. Accordons ce point. Je voudrais d'abord que tu précises en quoi et pourquoi la contingence, même radicale, des lois de la nature te permet de conclure à la possibilité du surgissement ex nihilo, parce qu'il y a là, à mon avis, un pas qu'on n'est pas obligé de t'accorder. Il y a deux choses différentes. On peut t'accorder, on pourrait t'accorder qu'il n'y a rien de contradictoire, de façon, du point de vue que tu donnes à ce terme, que, à la limite, telle loi de la nature change, et on peut, je pense, les physiciens peuvent, conçoivent des moments de l'histoire de l'univers dans lesquels les lois de la nature que nous connaissons n'étaient pas les mêmes, hein, dans quelques fractions de secondes après le Big Bang ou je ne sais quoi. Mais en quoi ceci te permet de conclure à quelque chose qui est ex nihilo? Que, autrement dit, pour le dire en termes extrêmement simples, que le tout se transforme et que même les lois qui accompagnent le tout se transforment avec lui, ne permet en rien, sauf si j'étais mal compris, de conclure que le tout pourrait de la même façon surgir du néant.
Alors, je vais préciser ces différentes questions à la fois de vocabulaire et de concept, en effet. Bon, d'abord, en effet, la physique contemporaine, l'astrophysique contemporaine parle régulièrement de la possibilité d'une évolution des lois physiques, puis Dirac notamment. Mais sur cette question, simplement, l'évolution des lois physiques, à l'intérieur de l'astrophysique ou de la physique ou de la cosmologie, pour autant que j'en comprends quelque chose, il s'agit toujours d'une évolution qui est en droit peut-être elle-même réglée par une loi d'évolution des lois. Sinon, on n'est plus dans la physique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de tenir la chronique de ce qui se passe, mais il s'agit toujours de viser, n'est-ce pas, la possibilité d'une loi d'évolution des lois, puisque la physique est toujours l'énoncé des lois. Bon.
Oui, attends, excuse-moi, mais ça ne peut pas être loi dans le même sens. Parce que dans un cas, c'est une loi qui règle quelque chose qui se répète, alors que quand tu appelles une loi d'évolution, ce n'est pas quelque chose... Ce n'est plus le problème de Hume, là.
Non, mais il s'agit toujours de dégager un invariant sous la variation. Il s'agit toujours de dégager un invariant sous la variation, plus fondamental sous une variation plus large. Le deuxième élément, pour venir plus directement à effectivement ce que j'ai dit, quand je parle de surgissement ex nihilo, j'en ai distingué clairement la création ex nihilo. Alors, la création ex nihilo, c'est non seulement une création qui vient en vérité d'une puissance transcendante, mais c'est également l'idée d'une création à partir d'un pur néant de quelque chose. Ça, j'en ai exclu, j'ai exclu ça du surgissement ex nihilo. Le surgissement ex nihilo, ça veut dire quoi? Je me donne de la matière, je me donne le fait qu'il y a déjà quelque chose, et j'en fais émerger quelque chose qui n'était en rien dans la situation première, d'aucune façon. Alors, en quoi est-ce que ce surgissement ex nihilo recouvre le problème hiumien? C'est que si les lois physiques ne sont pas nécessaires, et si je pose qu'à partir de cette bouteille, je peux obtenir une licorne peut se produire, il va y avoir une quantité de matière qui n'y s'y trouvait pas, une quantité énergétique qui ne s'y trouvait pas, création et rupture des lois de la conservation de l'énergie, etc. Bon, il va y avoir émergence de ce qui ne se trouvait en rien auparavant, ne serait-ce que sous la loi de la conservation de l'énergie, si elle est rompue, à l'intérieur de cette situation nouvelle. Bon, si je me donne maintenant une matière qui, disons, est entièrement réductible à ce que peut en dire la science de la nature, et que, à l'intérieur de cette matière, entièrement soumise à des lois physiques, je considère que lorsque certaines configurations sont produites, soumises aux lois physiques, ces configurations sont alors accompagnées de teneurs qualitatives, il y a effectivement aussi émergence ex nihilo, surgissement ex nihilo. Il y a quelque chose en plus qui ne se trouvait en rien dans la situation avant, c'est-à-dire que j'avais beau creuser mes particules jusqu'au moindre de leurs recoins, je ne trouvais en rien quelque chose de l'ordre de la qualité, si je suppose que ces particules sont entièrement énoncées par ce que peut en dire une science mathématisée, et j'obtiens pourtant, parallèle, associé, joint, je ne sais comment dire, à cette configuration particulière qu'on appelle un organisme, quelque chose qui se donne comme des teneurs subjectives. C'est aussi pour moi un surgissement ex nihilo. Remarquons que ce surgissement ex nihilo n'implique en rien la rupture des lois physiques. Elle applique quelque chose, la rupture des lois matérielles, plus précisément. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement joindre la thèse du surgissement ex nihilo à une thèse qui ne va pas affirmer que les organismes ont émergé n'importe comment. On peut dire que les organismes sont soumis aux lois physiques, mais certaines configurations s'accompagnent d'une émergence qui n'était en rien présente dans la situation jusque-là, et c'est un surgissement de qualité subjective. Bon, donc ce que j'essaye de montrer, c'est que le cas du surgissement ex nihilo, de quelque façon qu'on le comprenne, soit comme radical, c'est-à-dire surgissement qui rompt avec les lois de la physique, ou surgissement qui supplémente certaines configurations physiques de teneur qualitative, ces différentes modalités du surgissement ex nihilo sont autant de cas particuliers d'un temps chaotique qui lui-même peut être lié à la façon dont je tente de réinterpréter le problème de Hume.
Alors, je vois un peu mieux. Je trouve d'ailleurs que tes formulations, tes reformulations sont beaucoup plus soft que celle de l'exposé initial, mais je me trompe peut-être. Tu as reformulé le surgissement ex nihilo en insistant sur son opposition avec la création ex nihilo et en insistant davantage sur le caractère qu'on peut appeler émergentiste plus que surgissementiste, si je puis dire. Je crois qu'aucun matérialiste, peut-être s'il est illimité, éliminativisme, enfin l'éliminativisme n'a de sens que par rapport aux hypothèses fondatrices des sciences cognitives. Mais enfin, non.
Moi, je pense qu'on peut dire à bien des égards que le behavioriste a quelque chose aussi d'éliminativiste.
Oui, mais là, c'est des problèmes de
les uns comme les autres. Je pense, bon, enfin, je reviendrai sur ça. Si
mais admettons, je crois qu'aucun matérialiste, disons rationnel, ne peut nier en effet qu'il y a des situations d'émergence. Et que il est clair que le vivant est d'une certaine manière a forcément émergé du non-vivant, par exemple, ou que la conscience a forcément émergé de la non-conscience. Alors si c'est seulement ça le surgissement ex nihilo, tu as derrière toi une horde de matérialistes ou des hordes différentes de matérialistes qui vont simplement diverger sur les conditions de l'émergence, etc. Or, je crois que tu veux soutenir une thèse plus forte que l'émergentisme.
Alors, je vais encore préciser les choses. L'émergentisme, en effet, bon, on met beaucoup de choses sur le terme d'émergentisme. Prenons l'émergentisme tel qu'il est développé dans les théories contemporaines. Même dans les théories contemporaines, il y a beaucoup de choses. Bon. Mais l'émergentisme, qu'est-ce que c'est ? En vérité, si on le réfère par exemple aux théories de la complexité, ce qu'on appelle les théories de la complexité, les automates cellulaires, etc., c'est une théorie qui consiste à montrer que certaines configurations matérielles régies par des principes simples peuvent avoir des résultats extraordinairement complexes et imprédictibles. Bon. Les automates cellulaires, qu'est-ce que c'était ? C'est un mathématicien, Conway, qui avait inventé un jeu qui s'appelait le jeu de la vie. C'était sur un écran, il avait donné des instructions extrêmement simples à chacune des cases de l'écran qui pouvaient être blanches ou noires. Il disait par exemple, s'il y a trois cases autour d'une case noire, la case noire disparaît. Si elle a deux cases noires à côté, elle prolifère. Et des règles aussi simples que ça aboutissaient à une création de choses étranges qui ressemblaient à des cellules qui se déplaçaient, etc. Donc les théories de la complexité et de l'émergence, c'était quoi ? Ça consistait à dire, en vérité, les configurations organiques de la matière peuvent résulter dans leur complexité imprédictible de déterminismes extrêmement simples. Ce qui paraît un pur hasard, ce qui paraît régi par une finalité supérieure, peut en fait être régi par des principes très simples. Mais l'émergentisme dans cette première option, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une théorie interne à ce que j'appelle les organismes, c'est-à-dire les composés matériels, réductibles à ce qu'une science mathématisée peut en dire. À aucun moment, quelque chose comme les qualia n'intervient là-dedans. Ça peut expliquer comment les organismes sont nés à l'intérieur de la matière, ça n'explique pas pourquoi certains organismes sont pourvus de teneurs subjectives. Prenons un autre exemple, celui de John Searle. Searle, dans la redécouverte de l'esprit, tire à boulet rouge sur le cognitivisme. Et il dit, le cognitivisme, c'est vraiment une aberration, la thèse de l'intelligence artificielle forte, il n'y a pas de qualia, il n'y a pas de conscience, c'est aberrant. Bon. Et lui se définit comme un naturaliste biologique. Alors il dit, c'est quoi le naturalisme biologique ? Eh bien, c'est de dire que l'esprit a émergé à partir, disons, des neurones, comme, disons, à partir des molécules d'eau H2O, vous pouvez voir émerger des phénomènes tels que la solidité ou la liquidité, mais uniquement à partir des composés. Vous pouvez dire que la cellule en elle-même est solide ou liquide. Bon. Mais alors moi, ça me paraît un formidable sophisme, ça, encore une fois. Parce que ce qu'on peut dire qui a émergé, si c'est une analogie, disons que H2O égale neurone, et disons que composé de H2O, c'est-à-dire eau, liquide ou solide, égale cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, les composés neuronaux et les connexions complexes aboutissent en effet, on le sait bien, les neurologues le savent bien, ça aboutit à des relations entre les neurones extrêmement complexes, des propriétés structurales des relations des neurones entre eux, qu'on ne peut évidemment pas trouver dans les neurones singuliers. Mais on n'atteint que le cerveau, on n'atteint pas l'esprit du tout, il ne redécouvre pas du tout la conscience avec cette théorie de l'émergentisme. Moi, ce que je reproche aux diverses variantes de l'émergentisme, c'est en vérité de n'être que des explications de l'organisme, ce que j'appelle l'organisme, c'est-à-dire les composés matériels. matière, mais d'oblitérer tout autant que les théories éliminativistes, en fait, ce qui est l'obsession des psychologues, c'est-à-dire Descartes. Pourquoi est-ce que les théories contemporaines, psychologie contemporaine, font de l'anticartésianisme un exercice obligé? Parce que la force extraordinaire de Descartes, de ce qu'on appellera après son dualisme, lui-même, encore une fois, n'emploiera jamais l'expression, il considérera pas qu'il y ait une dualité de l'âme et du corps, mais c'est pas la question. La force de la pensée cartésienne, et qui en quelque sorte la rend si redoutable, c'est qu'elle émerge de la science elle-même. La science elle-même ne cesse de retrouver ce dont elle peut parler, qui est le mathématisable, la matière, le géométrisable.
Oui. Néanmoins, l'émergentisme, toutes ces formes, la forme surlienne, on est une forme relativement élaborée et qui tient compte en effet des apports des sciences cognitives. L'émergentisme, il se pose au moins deux types de questions, qui est la question de la conscience à partir de la non-conscience, et c'est là où toi tu situes le problème, mais il se pose aussi à un autre point de vue, qui est l'émergence de la vie à partir de l'inorganique. Alors, la question que je te pose, mais c'est vraiment une question, c'est pourquoi ce que tu appelles le surgissement ex nihilo, tu le situes au deuxième niveau, enfin au niveau de ce que tu appelles les qualia, et pas au premier, c'est-à-dire la question du vivant à partir de la matière, par exemple, qui est, puisque c'est les deux façons classiques de poser la question de l'émergence.
En réalité, je le situe à plusieurs niveaux, mais je parle ici que d'un seul niveau. Je pense que le matérialisme a fort à faire avec des versions contemporaines du finalisme, très élaborées et très intelligentes et estimables en elles-mêmes, qui peuvent le mettre en difficulté à plusieurs niveaux. On peut le mettre en difficulté au niveau de l'apparition des organismes eux-mêmes. On ne sait pas comment apparaissent les organismes. On sait que si on fait des théories probabilistes sur l'apparition des organismes avec les lois physiques qu'on connaît, on aboutit à des aberrations probabilitaires. Bon, c'est l'expérience classique. On dit, voilà, pour que les composés fondamentaux de la vie apparaissent à partir de la seule soupe primitive, il faudrait qu'un cyclone passant dans un hangar d'aéronautique arrive à construire un avion. Bon, c'est des vieilles querelles comme ça.
Si on a l'infinité lucrétienne, il n'y a aucune raison que ce soit impossible.
Le problème, c'est qu'on ne l'a plus. C'est-à-dire que si on est dans les théories du Big Bang, et c'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de physiciens s'opposent à ces théories, on a l'infinité du temps et on a aussi l'infinité de la matière, puisque la matière a une densité. Donc la science, est au contraire, donne des armes, y compris pour justement réduire la possibilité. On ne peut plus justement être lucrétien dans cet univers qui, paradoxalement, paraît encore plus fini que celui d'Aristote, puisqu'au moins Aristote avait l'infinité du temps. Bon, donc les matérialistes sont un peu embarrassés à tel point que les théories... ça c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est l'évolution elle-même des espèces, des organismes. Alors on ne sait pas comment ça se passe, la génétique du développement dit certaines choses, les théories de la complexité aussi, mais enfin ça ne va pas loin. Donc là, on dit, voilà, c'est le dieu des trous, c'est God of the Gaps, c'est-à-dire vraiment on n'arrive pas à expliquer l'émergence, l'évolution des espèces, donc il faut une création. Bon. Mais le plus grave que ça, c'est que si on y arrivait, alors les finalistes seraient encore plus heureux. Parce que si on arrivait à expliquer que les lois de la matière sont faites pour rendre nécessaire l'apparition du vivant, ben on dirait, mais écoutez, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, il y a une infinité d'univers concevables, et justement, c'est notre univers qui existe, en sorte qu'il puisse faire émerger les espèces et l'être humain. Donc ça, c'est l'anthropisme qui prend le relais du créationnisme, c'est-à-dire si le créationnisme manquait son coup, l'anthropisme rattraperait la mise.
Et une fois qu'on... avec un A.
Avec un A, l'anthropisme avec un A, qui alors, pour s'opposer à l'anthropisme, que font les malheureux matérialistes? Eh bien, ils inventent l'univers qui leur convient, c'est-à-dire celui dont tu parles. C'est-à-dire, ils disent, en fait, l'univers est infini, il y a une quantité de matière infinie, donc ils créent des cosmologies alternatives. Bon, c'est-à-dire que les matérialistes sont obligés de dicter aux astrophysiciens l'univers qu'il faut qu'il y ait pour que le finalisme soit récusé. Et puis, alors, si on arrivait à faire ça, ben, on n'aurait toujours pas expliqué comment cette matière arrive à faire émerger les qualia, comme je viens de le dire, et alors, à ce moment-là, on serait dans l'illusionnisme ou l'éliminativisme. Bref, le matérialisme me paraît en mauvais état s'il refuse la contingence des lois et le surgissement ex nihilo. C'est pour répondre à toutes ces difficultés contemporaines qui sont en fait des difficultés classiques, mais dont l'intérêt de la séquence contemporaine de la pensée est qu'elle reprenne en quelque sorte le devant de la scène après une éclipse de la métaphysique. C'est à l'ensemble de ces difficultés qu'en fait j'ai tenté de répondre en essayant de montrer la chose suivante. En fait, en affirmant la contingence des lois, je n'affirme à aucun moment le nécessaire désordre des lois. Toute la démonstration que j'ai essayé de produire, c'était ça. Mais en quelque sorte, j'essaye de dédramatiser ce qui se passe. Et j'essaye en fait de montrer en quoi les sciences ont raison d'être expérimentales. Si nous ne pouvons absolument pas, a priori, d'une séquence A en afférer une séquence B dans le temps, eh bien, il faut laisser la science travailler. Seule la science doit décrire au mieux les configurations qui sont les siennes. Si nous avons besoin des qualia pour décrire la vie subjective, eh bien, conservons les qualia. Si nous avons face à nous une loi qui paraît régulière, très bien, faisons la physique. Si la loi est irrégulière, au lieu d'y voir une manifestation d'un miracle divin, pour ma part, j'y vois la manifestation du chaos radical.
Oui, moi, en fait, c'est un petit peu périphérique, mais du point de vue historique, je suis pas tout à fait d'accord avec l'opposition que tu dessines entre le matérialisme et l'idée de surgissement ex nihilo. Il me semble que, d'une certaine façon, tous les matérialistes défendent une forme de surgissement ex nihilo et que c'est vraiment une thèse centrale du matérialisme. Et il me semble que la raison pour laquelle tu fais cette opposition, c'est que souvent tu... En fait, il y a un peu deux sens différents du refus du surgissement ex nihilo. Il me semble qu'il y a d'un côté le refus du surgissement ex nihilo peut prendre la forme tout simplement du principe de causalité, tout ce qui arrive à une cause. Donc il me semble que ça pourrait être une première forme de refus du surgissement ex nihilo. Et ça, c'est simplement un principe épistémologique. Et il me semble qu'il y a une deuxième forme de refus du surgissement ex nihilo, qui est le réductionnisme, qui par contre est un principe ontologique et qui revient à dire que tout ce qui existe s'explique par le niveau inférieur d'explication. Et il me semble que ça, ce sont deux thèses assez différentes. Et alors, il me semble que l'incompatibilité que tu décris entre matérialisme et surgissement ex nihilo vient largement d'un passage ou d'une confusion souvent entre les deux plans, parce que finalement les matérialistes, notamment du XVIIIe siècle, il me semble qu'ils étaient tous, enfin dans mon souvenir, ils sont tous partisans par exemple de l'épigénèse contre la préformation, et l'épigénèse c'est bien l'idée que dans les êtres vivants il y a quelque chose qui se forme à partir évidemment pas tout à fait de rien, mais quand même, il y a quand même une auto-organisation de la matière vivante, une capacité à la fois du vivant à émerger du non-vivant, et ces mêmes matérialistes soutiennent aussi que la conscience a émergé de la matière, hein, pour reprendre les deux plans que tu as dissociés. Le matérialisme en question, d'ailleurs, ne conduisant pas nécessairement à l'hylozoïsme, mais bien souvent à la recherche des conditions matérielles précises auxquelles la conscience semble rattachée. Hein, parce que quand même, on commence à s'intéresser au cerveau à cette époque, au système nerveux. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'il me semble que finalement, la position que tu énonces à la fin de ton exposé, elle ne me semble pas foncièrement différente en fait, d'une voie qui a été suivie par le matérialisme, me semble-t-il, au moins au XVIIIe siècle. Je ne sais pas exactement ce qu'il en était des Grecs. Mais voilà. Donc,
Alors, pour te répondre, je suis pas du tout d'accord avec ton interprétation. D'abord, l'épigénèse, comme tu viens de le dire, c'est un surgissement pas tout à fait de rien. Bon, alors, c'est pas tout à fait de rien, l'épigénèse. C'est-à-dire que c'est pas voilà, comme ça. Il s'agit de saisir en quoi il y a une configuration, en effet, qui n'est pas... Entre la préformation et le surgissement ex nihilo, il y a beaucoup de médiation. Donc, ce n'est pas parce qu'on refuse la préformation qu'on dit qu'il y a, par exemple, création de matière à partir de rien. Donc, ce n'est pas la même chose, à mon sens. On ne peut pas dire que c'est le surgissement ex nihilo. La deuxième chose, c'est qu'il faut prendre des exemples précis. Maupertuis est matérialiste et hylozoïste. Diderot est matérialiste et au moins fortement tenté par l'hylozoïsme. Bon, prenons un autre matérialiste, Lamétrie. La maîtrise, c'est quand même le matérialisme par excellence. Bon, au XVIIIe siècle, on a peu d'aussi radical. Même Helvétius n'a pas sa radicalité. La maîtrise, lorsqu'il tente de penser l'émergence de la conscience à partir de la matière, pour reprendre ton exemple, dans un premier temps, en vient à réhabiliter les formes substantielles d'Aristote. Bon, après, il se reniera. Bon. Mais c'est-à-dire qu'il essaye de saisir en quoi la matière est déjà en puissance pensée. Alors effectivement, elle n'est pas encore pensée, hein, c'est vrai, mais elle est en puissance pensée. Pourquoi est-ce qu'il y a une modification ? Pourquoi il y a un appel à la notion d'empuissance, y compris selon c'est très intéressant, selon justement un paradigme aristotélicien récusé par excellence, hein, parce que il s'agit quand même de ne pas aboutir à ce qui est déjà l'obsession du matérialisme à l'époque, qui est le dualisme cartésien. C'est-à-dire, si on disait, si on admettait qu'il n'y avait rien de commun entre la conscience et la matière, et que pourtant la conscience émerge de la matière, oui, il faudrait franchement dire qu'il y a surgissement ex nihilo. Mais dans ce cas-là, le cartésianisme ne poserait pas problème. Ce ne serait pas l'adversaire redoutable qu'il est précisément pour les matérialistes. Pourquoi est-ce que c'est un adversaire redoutable? Parce qu'il pose deux termes qui sont incommensurables l'un à l'autre. Deux substances radicalement séparées l'une avec l'autre. Et donc, à mon avis, tout ce que j'ai lu des matérialistes, en tout cas au XVIIIe siècle, consiste à retrouver la continuité sous l'apparente discontinuité des substances. Et donc, pas du tout dans la voie de dire « Oh, ben, c'est apparu, en effet, à partir d'une matière qui n'a absolument rien à voir avec la pensée. » Non, moi, ce que j'ai lu, c'est pas du tout cette direction-là. Bon, mais on a une querelle historique, là.
Moi, j'aurais deux questions à vous poser. La première, qui a peut-être à voir avec ce que Francis Wolff a dit, c'est je me demande pourquoi. J'ai bien suivi votre exposé et je partage enfin votre souci général. Donc, ça prend la forme d'une objection, de deux objections ponctuelles, mais si j'arrive bien à l'exprimer. La première, c'est pourquoi attacher, somme toute, la nécessité de la contingence, quelque chose comme ça, à la conscience ou au qualia. Ça, c'est le point qui, pour moi, est assez obscur. C'est-à-dire pourquoi il faudrait plus de contingence pour expliquer la conscience, m'a-t-il semblé que c'était quand même ça dans votre démarche, que pour expliquer d'autres phénomènes qui n'ont pas besoin de la conscience. Bon. De ce point de vue-là, l'objection que je ferais, c'est que si on la fonde sur l'opposition quantité-qualité, il est assez facile de faire émerger de la qualité à partir de la quantité. Vous citiez Cantor, etc., disons toute la théorie des grands cardinaux, montre très bien qu'avec les axiomes qui fondent Aleph 0, c'est-à-dire qui fondent l'infini, enfin, avec ça, vous générez des qualités sans nombre, dont on ne sait même plus ce que ça produit d'ailleurs, enfin bon, les cardinaux inaccessibles, etc. Donc, la première chose, c'est que autant j'entends bien ce que vous dites sur la nécessité de la contingence, etc. Mais dans la démonstration, le fait d'attacher la nécessité de cette contingence, si je puis dire, enfin, on en a besoin pour expliquer la conscience, là, c'est là où ma première objection, c'est-à-dire je ne vois pas parce qu'il me semble que peut-être, je ne suis pas scientifique évidemment, mais peut-être qu'on arrivera assez facilement à expliquer la contingence, l'émergence de la conscience, comme on explique encore une fois assez facilement déjà l'émergence de propriétés qualitatives à partir de quantités. Bon. Alors ça, c'est la première question. Donc pourquoi donner une valeur de paradigme aussi grand ou de paradoxe aussi grand à la question des qualia, si je l'ai bien comprise. Et la deuxième, c'est... alors ça porte sur comment dire, si la contingence, c'est finalement... il arrive quelque chose, ou il peut se passer des choses. On va le prendre comme ça. Alors évidemment, ça renvoie à la problématique de l'événement chez Badiou. Alors, je me posais la question du rapport de cela avec le sujet pour vous, parce que finalement, comment dire, dans la problématique par exemple de Badiou, bon, il arrive quelque chose, mais c'est d'une certaine façon, c'est un sujet. Il arrive quelque chose dans l'ordre de l'être, mais c'est somme toute un sujet qui va être celui qui va s'en emparer, qui va le mettre au travail, si je puis dire. Bon. Et donc. Est-ce qu'il n'y a pas, alors ça serait ça ma question, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas dans la question du matérialisme moderne ou contemporain tel que vous essayez, me semble-t-il, de le rétablir, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité d'admettre un deux ? Peut-être pas un dualisme au sens des cartésiens, mais un deux. Alors, au sens, par exemple, pour Badiou, il y a l'être et le sujet, c'est quand même deux ordres, deux plans qui ne transitent pas de l'un à l'autre. Bon. Et est-ce que... Alors, il me semble que dans votre problématique, je crois entendre une manière de refuser l'idée même qu'il y ait un deux possible. Je ne suis pas sûr de ça. C'est une question que je vous pose, en fait. Et est-ce que vous ne pensez pas donc qu'il y aurait quelque chose comme une problématique du matérialisme moderne ou contemporain qui devrait, justement, au lieu d'être enfermé dans une sorte d'unitarisme, je ne sais pas comment le dire, enfin, qui devrait, au contraire, être à même de s'emparer de l'existence d'un deux minimal sous la forme être-événement, alors que votre problématique de la contingence semble toujours me donner le sentiment de recoller ce qu'il arrive à l'être ou quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas si ma question est tout à fait claire, mais...
Je vais essayer d'y répondre clairement. La première objection recoupe quand même, je pense, ce que j'ai tenté de développer à propos de l'émergence. Quand vous parlez de la qualité qui émerge à même, par exemple, les nombres, la succession des nombres des cardinaux transfinis, bon, dans la théorie des grands cardinaux, en fait, vous faites appel au fait que cette théorie, par exemple, par des axiomes successifs, va poser l'existence d'infinités gigantesques pourvues de propriétés structurales originales, enfin, de propriétés originales. Bon. Mais bon, entendons-nous sur les termes, on peut appeler ça qualité, si on veut, de l'intérieur des mathématiques, c'est pas ce que j'ai appelé qualia. Précisément, si je parle des qualia, c'est que vous aurez beaucoup plus de mal à me convaincre qu'une théorie mathématique peut faire émerger la fragrance d'un automne mélancolique à l'intérieur de ses propres calculs. Bon, donc c'était simplement pour montrer qu'il y a une sphère des qualités que j'appelais qualia suivant l'usage psychologique pour ne pas l'appeler précisément qualité, parce qu'on pourra toujours dialectiquement dire qu'à l'intérieur de la théorie des quantifications, il y a autre chose que des quantités, il y a des qualités à l'intérieur même de la théorie mathématique. Bon, c'est une question lexicale, je pense. Mais j'ai insisté sur les qualia, tout simplement parce que ça vaut symptôme, en quelque sorte, d'un déni matérialiste, à mon avis, à mon sens, depuis le XVIIIe siècle, en tout cas d'une difficulté particulière, dont j'ai voulu montrer qu'effectivement, une préoccupation ontologique qui était la mienne, qui n'était pas directement liée à ce problème au départ, a pu en quelque sorte se réinscrire dans une histoire que je crois problématique du matérialisme. Sur le 2, je vous dirais simplement, je ne peux pas exposer ici la théorie d'Alain Badiou qui est complexe, je dirais que je me sens pas tellement dans la perspective d'une réhabilitation du 2, disons d'une opposition entre le sujet et l'être. Je suis assez proche de l'énoncé deleuzien pluralisme égale monisme, c'est-à-dire non pas tant un dualisme qu'un pluralisme, parce que je pense qu'une des stratégies du matérialisme face au dualisme, c'est de dire il n'y a pas en quelque sorte une opposition, il y en a autant que vous voulez, c'est-à-dire il y a un règne de l'hétérogène pur. En revanche, je peux maintenir une sorte d'opposition classique entre la pensée et l'être, ou disons une relation classique de la pensée et de l'être, en ce que je ne renonce pas à l'idée, en somme platonicienne, d'une traversée des apparences par l'intellect. Simplement, cette traversée des apparences devrait prendre la forme d'une saisie des propriétés non quelconques du chaos, ce que j'appelle les propriétés non quelconques du chaos. L'essence même de l'investigation que j'essaye de poursuivre étant de dégager les moyens d'une rationalité qui dégagerait précisément des propriétés non quelconques du chaos. J'ai parlé du transfini. Est-ce que nous pourrions dégager d'autres propriétés que le transfini? Y a-t-il des procédures argumentatives susceptibles de produire ce genre d'inférence? C'est-à-dire, de l'absence de raison des choses ne s'ensuit pas la déraison, l'absence de tout raisonnement, mais s'ensuit la reconfiguration d'un certain type de rationalité qui est en train de penser ces propriétés de l'absence de raison. Alors, de ce point de vue-là, je retrouve, disons, un rapport très classique, hein, je ne le nie pas, de la pensée et de l'être, mais qui n'est pas, en effet, qui n'a pas la configuration de celle d'Alain Badiou.
Deux questions, mais un peu comme la jeune fille là, en dehors, un peu. Deux questions, mais un peu en dehors, un peu. Est-ce que tu penses, pour finir, l'inexistence divine, utiliser logique des mondes? Et puis, est-ce que tu connais l'anthropologie du nom de Lazarus?
Je ne sais pas si je vais utiliser logique des mondes. Ce qui est intéressant dans logique des mondes d'Alain Badiou, c'est que Alain Badiou tente, comme on l'a peu tenté avant lui, à ce degré d'exigence, de soumettre précisément le règne des qualités, le monde de la qualité, à la pensée mathématique. Je crois qu'il va aussi loin, en tout cas, qu'on peut aller, en tout cas, époque contemporaine, pour tenter de soumettre le monde de la qualité à une pensée formalisable. Bon. Malgré tout, je persiste à penser que la qualité, au sens le plus immédiat du terme, résiste intimement à cette reconfiguration, quelle que soit la richesse, par ailleurs, de cette recompréhension mathématique, notamment mathématique mais aussi conceptuelle, du règne des qualités. Oui, je connais l'anthropologie du, monde, du nom, mais là, j'avoue que je ne sais pas, je vois pas très bien quel est le lien avec, avec ce que j'ai fait.
Oui, alors moi j'ai deux questions. La première concerne en fait la notion de nécessité de la contingence. Vous avez parlé à un moment de platonisme inversé, d'une espèce de plasticité de l'esprit qui s'opposerait à une stabilité des phénomènes. Est-ce que ça signifie que la contingence donc des lois naturelles, enfin, la contingence des lois, est fondée sur une nécessité. Enfin, on peut, disons, trouver de la nécessité dans la contingence grâce à, disons, une implication ou, disons, une stabilité des phénomènes et une forme de stabilité pratique par rapport à ce monde de l'esprit que vous avez décrit comme chaotique et comme lié à la question du temps et du surgissement ex nihilo. Et la deuxième question qui est peut-être liée, c'est savoir si quel est votre rapport à Kant dans cette perspective, parce que vous avez dit vous avez, grâce à la critique de la raison probabilitaire ou aléatoire, que finalement Kant s'était lui-même fourvoyé, c'est-à-dire en allant dans le suprasensible et justement en faisant ce que lui-même avait défendu de faire. Et j'ai l'impression que c'est que vous-même, avec votre théorie de la nécessité de la contingence, vous remettez en quelque sorte, vous réactualisez Kant en montrant que finalement on ne doit pas, enfin qu'il y a, il faut que je m'exprime un peu mieux, mais comment dire, la réactualisation de Kant passerait par la redéfinition de la finitude, comme vous l'avez dit, et par une possibilité ensuite par une évacuation d'un certain nombre de questions. Et dans ce cas-là, enfin moi c'est une question plus pour être plus précis, quel est votre rapport exact à Kant sur la notion sur cette question de la finitude? Est-ce que vous pensez que Kant sérieusement était un penseur de la finitude, ou est-ce qu'il y avait dans son œuvre des passages où il y avait une ouverture justement à l'être ou à l'esprit, alors que justement c'est un penseur qui par définition avait évacué la question de l'origine. Est-ce qu'on la retrouve, enfin vous pensez qu'on peut la retrouver par quelquefois? C'est une question un peu complexe et un petit peu bafouillante. Désolé.
Petite parenthèse, je rappelle que normalement le séminaire s'appelle Position et Arguments, où on doit essentiellement essayer d'argumenter à partir et des arguments soutenus par le conférencier lui-même plutôt que par des auteurs interposés comme Kant ou Badiou. Et ceci pour un rappel un peu policier.
Pour répondre, ça va être difficile d'éviter Kant. Alors, la question de la finitude, je ne l'ai pas abordée ici. Je ne l'ai pas vraiment évoquée. Disons que, voilà. En fait, pour singulariser davantage la thèse que je soutiens par rapport à celle du matérialisme tel qu'il a été soutenu, même qu'on l'appelle surgissement ex nihilo ou non, je dirais ceci. Pour, disons, affronter la question franche du dualisme héritier de Descartes, de l'esprit et du corps, là, la proposition que je fais, c'est, bon, essayons de nous convaincre que la réponse du surgissement ex nihilo n'est pas verbale. J'en ai fait une première chose. Pour ce faire, essayons de raisonner sur le problème de Hume avec la proposition que j'ai faite d'une contingence des lois de la nature. Et j'ai conclu en disant, on peut délier stabilité et nécessité des lois en disqualifiant un raisonnement de type kantien qui propose une extension illégitime du raisonnement probabiliste au-delà des frontières de la sensibilité. Maintenant, dans Après la finitude, je tente d'aller plus loin. Et pour tenter d'aller plus loin, je tente d'avoir un rapport à Kant peut-être plus fondamental que celui que j'ai évoqué ce soir. Ce rapport est le suivant. Au fond, l'intuition dont je suis parti il y a quelques années maintenant, c'est la suivante. Et si nous posions que la chose en soi, c'était la facticité des formes a priori de la représentation de Kant? Si nous faisions l'hypothèse, en nous plaçant en quelque sorte dans un univers post-kantien, que pour nous extraire de l'interdit kantien de l'accès à la chose en soi, nous posions que la chose en soi, c'est ce que Kant doit lui-même poser comme pensable, à savoir la facticité indépassable des formes de la représentation. La facticité de l'espace, du temps et des 12 catégories. Facticité qui fait, comme le dit Kant dans la déduction transcendantale, que nous sommes incapables de démontrer la nécessité qu'il y ait 12 catégories, et justement ces catégories, ou l'impossibilité, dit-il ailleurs, de démontrer que l'espace doit avoir 3 dimensions et non pas davantage. Alors, je suis parti, en quelque sorte, de ce platonisme inversé dont j'ai parlé, en m'appuyant sur cette intuition que Kant lui-même devait avoir un concept antécatégoriel de la contingence. Antécatégoriel, parce que vous savez que dans les 12 catégories, il y a des catégories modales, du possible, du nécessaire, du contingent, et du réel. Et pourtant, il y a aussi, il emploie quelquefois le terme de contingence pour désigner, non pas seulement de facticité, mais de contingence, pour désigner le fait qu'on ait justement ces catégories et pas d'autres. Et il y a donc à l'horizon, en quelque sorte antérieur aux catégories, une contingence antécatégorielle qui permet à Kant de fonder le caractère essentiellement descriptif de sa démarche et non pas déductif ou disons fondationnel de type fichtéen ou bien systématique de type hegelien. Bon, on ne peut pas déduire les 12 catégories, on ne peut que les décrire. L'idée que j'essaye de dégager, si je dois m'appuyer sur Kant, c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas un horizon du transcendantal lui-même qui est en fait un horizon qu'on peut transformer en un horizon spéculatif et qui est en fait le fait que Kant a saisi que ce qui est à l'horizon, à l'origine même de toute pensée descriptive, c'est une position qu'on peut penser autrement que sur un mode descriptif si on s'exempte des conditions du transcendantal. L'idée, ce serait d'arriver à démontrer la nécessité de cette position. Pour la démontrer, j'essaye, ça je ne vais pas m'avancer ici, sauf s'il y a des questions en ce sens, pour la démontrer, j'essaye de m'appuyer sur une figure de raisonnement qui est de type aristotélicienne, dans Métaphysique Gamma, qui est qu'au fond, on ne peut pas contester la contingence des formes de la représentation, des formes du discours, des formes de la connaissance, ou des choses elles-mêmes. Je pense qu'il y a une contingence univoque qui s'applique au discours comme aux choses, aux formes du discours comme aux choses. On ne peut pas la contester sans la présupposer si on se tient dans un cadre sceptique ou relativiste. Voilà. Mais je ne vais pas m'avancer davantage pour l'instant ici sur ce point, parce que je risquerais de ne pas être tout à fait clair.
Je voudrais peut-être te permettre de compléter ce que tu viens de dire dans ton exposé en rappelant que quand même notre série porte sur le temps. Tu as beaucoup parlé du surgissement ex nihilo et très peu du temps. Et sinon, dans les prémices et dans la conclusion ultime, alors tu me diras, c'était pas peut-être ton objet. Néanmoins, je crois qu'il y a des choses que tu devrais être amené à dire sur le temps et que j'aimerais t'entendre dire maintenant. Quelle conception du temps t'amène, enfin, à quelle conception du temps es-tu amené, un, par l'idée de contingence des lois, d'une part, hein, et d'autre part, par l'idée du surgissement ex nihilo. Est-ce que, par exemple, tu es amené à postuler discontinuité du temps, une atomicité des instants, y a des questions comme ça qui sont derrière, puisque en général, c'est pas l'idée que il y a des lois de nature et il y a une certaine idée, bon, je sais pas, continuiste ou une idée peut-être newtonienne d'un temps flou, etc. Qu'est-ce que ça t'amène à soutenir de façon purement spéculative là sur le temps lui-même?
Alors d'abord, si je reste au concept que j'ai développé ce soir, j'ai essayé de penser une temporalité déliée en effet de toute loi physique. Cette temporalité déliée de toute loi physique, elle n'est donc pas, disons, un flux de type héraclitéen. Elle se rapproche davantage, pourrait-on penser, par exemple, de l'indéfini d'un Anaximandre, de la période d'un Anaximandre qui, dans l'interprétation de Marcel Conche, fait émerger les mondes ou les détruit. Et pourtant, elle s'en distingue sur un point spécifique. Il me permet d'approcher le concept de temps que j'essaye de faire valoir. En fait, ce qui est intéressant dans les pensées qu'on appelle les pensées usuelles, disons, les conceptions qu'on peut se faire usuellement des grands penseurs du temps, tels qu'Héraclite ou Anaximandre. Héraclite, c'est le penseur du flux, oui, mais le temps n'a pas accès en quelque sorte à la dichée, c'est-à-dire que le temps est soumis à un ordre spécifique. Il toute chose peut être détruite dans le temps, mais l'ordre du temps lui-même n'est pas accessible au temps. Donc je propose que l'ordre du temps soit accessible au temps, que les lois deviennent un événement temporel parmi les autres. Alors là, on se dit, oui, mais ça pourrait être lié à une certaine interprétation d'Anaximandre, comme celle que propose Conche, encore une fois. Alors là, dans le monde de Conche, dans le monde d'Anaximandre vu par Conche, ou interprété par Conche, je pense assez juste, les mondes eux-mêmes émergent, s'effondrent, etc. Et on pourrait dire même que, peut-être, on pourrait dire qu'Anaximandre a eu l'intuition de mondes qui seraient liés à des lois différentes. Et pourtant, il y a une chose qui fait que je ne suis pas anaximandréen, même dans cette perspective, c'est que, et ça, on l'a en quelque sorte dans le texte, le seul texte qui nous reste d'Anaximandre, c'est que les choses doivent périr. Les choses doivent périr dans la pensée anaximandrienne. Et là, on se rapproche de l'idée qu'on se fait usuellement du temps chaotique. C'est-à-dire, on se dit le chaos, c'est le désordre, et le chaos en particulier, c'est l'obligation pour les choses de périr. Ce qui est né doit tôt ou tard périr. On fait souvent de cette conception du temps quelque chose qui nous permettrait de nous extraire de la métaphysique. Il y a une certaine fidélité de Heidegger lui-même à cette parole d'Anaximandre, n'est-ce pas, du fait que notre mort, que notre périr est intimement lié à notre existence. Bon. Je crois que c'est encore une idée métaphysique au sens où c'est encore une idée qui est implicitement soumise au principe de raison, même si le principe de raison sera évidemment formulé bien après Anaximandre. Pourquoi ? Parce que quand on croit que le temps souverain impose à ce qui naît de périr, on continue de penser qu'il y a des lois qui régissent les choses. C'est encore un temps qui est régi par une loi. C'est encore un temps qui est enchaîné par une loi, qu'un temps qui est dans la contrainte de faire périr ce qui est né. Ce que j'essaye de montrer, c'est que le chaos le plus radical est compatible, y compris avec la pérennité, y compris avec l'immortalité. Il est capable de tout puisqu'il n'est tenu en quelque sorte à rien. Donc ça peut même être un temps qui est opposé au devenir, un temps qui peut faire périr le devenir. Pourquoi ? Parce que la seule chose que je me donne comme contrainte, c'est le principe de non-contradiction. Mais il n'est pas contradictoire que toute chose cesse de devenir, que tout devienne en quelque sorte fixe, statique, mort, pérenne, n'est-ce pas ? Même le devenir peut être détruit par un temps qui n'est soumis à rien. Et donc c'est en quelque sorte une gymnastique mentale à laquelle je vous convie, c'est de vous délier de l'idée que les grands penseurs du temps, n'est-ce pas, ce sont des penseurs d'un temps soit soumis à des lois, soit soumis à la loi que tout ce qui est né doit périr. Un temps qui n'est vraiment soumis à rien, n'est même pas tenu au désordre, n'est même pas tenu au devenir. Alors, néanmoins, dans ce temps, j'ai mis un principe d'ordre, c'est le principe de non-contradiction. Alors, là, effectivement, je rejoins une de mes préoccupations que j'ai brièvement évoquées. Quand je parle d'une raison émancipée du principe de raison, ce serait une raison qui parviendrait à mettre en place des inférences qui, de ce chaos pur, tellement chaotique qu'il est capable de tout, même de l'ordre, même du statisme le plus désespérant ou de l'immortalité la plus joyeuse, eh bien, ce temps-là, néanmoins, est-ce qu'on peut en inférer des propriétés non quelconques ? Et alors, en quelque sorte, la séquence dialectique que je me propose de développer, c'est la suivante. Est-ce qu'on ne pourrait pas inférer ce principe souverain de non-contradiction du chaos lui-même ? Au lieu de penser que c'est un principe fixe qui s'oppose aux penseurs du chaos, eh bien, proposer que le principe de non-contradiction, c'est en fait une résultante du chaos. Et là, je m'appuie en quelque sorte sur deux auteurs, Aristote, Métaphysique Gamma, et Hegel. Pourquoi ? Parce qu'Aristote a une parole extraordinaire à propos du principe de non-contradiction. Il dit, si le principe de non-contradiction était faux, si la contradiction existait, tout serait le même. Rien ne serait distinguable. L'homme serait trirème, etc. Et Hegel, que nous dit Hegel ? Hegel nous dit, si nous voulons penser une nécessité absolue, il faut penser un absolu dont la contradiction est un des moments. Pourquoi ? Parce que seul ce qui a la contradiction dans son propre processus n'est pas extérieur à ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire, seul ce qui a son autre en lui-même ne peut pas devenir autre. Seul ce qui est donc contradictoire au sens dialectique du terme, n'ayant pas son altérité en dehors de lui-même, ne peut être que ce qu'il est, puisqu'il n'a pas d'altérité pour devenir. Je pense que c'est ce qu'Aristote avait déjà implicitement saisi. Si en fait vous vous donnez du contradictoire, loin de vous donner un penseur du flux, par exemple Héraclite, quand on croit qu'il soutient la contradiction, celui qui soutient la contradiction est censé soutenir le flux radical et le désordre, ou le pur flux, je pense que le partisan de la contradiction soutient au contraire la nécessité absolue. La nécessité métaphysique absolue, ce n'est pas un hasard si Pyrrhon et Hegel, qui sont les deux culminations, l'un de la philosophie grecque dans le dernier grand mouvement hellénistique et le scepticisme, l'autre, Hegel, ont l'un et l'autre soutenu la contradiction. Pourquoi ? Parce que la nécessité métaphysique la plus haute, celle qui, en quelque sorte, aboutit à une entité qui ne peut pas devenir autre parce qu'elle est ce qu'elle n'est pas, et parce qu'elle elle est aussi bien ce qu'elle n'est pas, donc elle n'a plus d'espace d'altérité, ce sont des pensées de la contradiction. Le oumalon de Pyrrhon, qui dit que toute chose est contradictoire, et la contradiction dialectique, nous révèle qu'en vérité, c'est le partisan de la nécessité métaphysique qui croit en la contradiction. Moi, je propose une démarche inverse, je propose une inférence de ce chaos. Disons que les choses ne peuvent pas être contradictoires parce qu'elles doivent être contingentes. C'est-à-dire que pour pouvoir devenir autre, il ne faut pas être ce que l'on n'est pas. Il ne faut pas être aussi bien ce que l'on n'est pas. En sorte de préserver cet espace, cette altérité, n'est-ce pas, hors de soi, d'avoir ce que l'on n'est pas hors de soi. Il faut être non contradictoire pour pouvoir devenir ce que l'on n'est pas, maintenir l'espace d'altérité. Alors c'est cette sorte de séquence-là, cet exercice intellectuel auquel je me force pour essayer d'aboutir à une idée de temps qui ne rejoigne pas en quelque sorte un certain nombre de jugements assez partagés sur l'histoire de la philosophie et la façon de le concevoir.
Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Où est le micro ? Je ne sais pas. Ah, il revient.
J'aurais une question sur le statut de la convocation des théories de Cantor. Je voulais savoir s'il servait uniquement à mettre à distance Kant, au sens où l'idée que la totalité du possible soit impensable permettait de mettre à distance les raisonnements de Kant, en ceci qu'il aurait une hypothèse implicite qui serait erronée, ou si on devait le prendre dans un sens plus fort, plus vaste, et si on pouvait parler à son propos, comme vous l'avez fait au début de votre exposé, d'une vérité ontologique du galiléisme, ressaisie par les philosophes. Donc si on devait le prendre, de la même manière qu'on a saisi une vérité ontologique du galiléisme, on pouvait prendre une espèce de vérité ontologique de théorie de Cantor, et quel sens ça voudrait dire, et comment est-ce qu'on passe du premier sens, de la première convocation, à la seconde. Voilà.
En fait, il y a plusieurs choses. La vérité du galiléisme, disons que j'ai tenté de dégager une philosophie qui n'était pas embarrassée de l'hypothèse que le galiléisme soit vrai, c'est-à-dire de l'hypothèse suivant laquelle nous ne perdons rien des propriétés de la nature en expulsant les qualités. Ça, c'est une hypothèse. Je n'ai pas dit que c'était absolument vrai, mais j'ai dit qu'il y a en tout cas une façon de concilier le matérialisme avec le galiléisme, de supprimer cet embarras que, pour ma part, je pense persistant entre le matérialisme et le galiléisme. La deuxième chose, c'est la théorie de Cantor, en effet, vous avez raison, je l'ai convoqué de façon en quelque sorte défensive. C'est-à-dire, j'ai essayé de convoquer la théorie de Cantor pour essayer de parer à une objection dirimante du type de la déduction transcendantale. Ce que je n'ai pas fait de façon tout à fait rigoureuse devant vous, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas, de la contingence elle-même des choses, inférer la nécessité d'une intotalisation du possible ? Parce qu'au fond, c'est ce que j'ai dit. Cantor dit, voilà, le possible est intotalisable. Ce que j'ai dit, c'est puisque le possible est conceptuellement intotalisable, on n'a pas la garantie que le possible réel soit totalisable. Je n'ai pas dit le possible était intotalisable. J'ai dit, on n'a pas la garantie que le possible concevable est intotalisable. Mais je ne l'ai pas démontré, ça. Il me suffisait de dire, si on n'a pas la garantie que le concevable soit totalisable, on n'a pas le droit de produire l'inférence probabiliste, puisqu'on n'a aucune garantie sur la totalité des cas sur laquelle on opère. Par contre, ce serait autre chose que de dire, je me donne la contingence radicale des choses et je tente d'en dériver la vérité des mathématiques cantoriennes quant à ce théorème précis qui, en fait, est conjugué à une thèse philosophique forte, c'est l'intotalisation du possible. Ça, c'est ce que j'ai tenté de faire, mais ça m'a pris, en effet, pas mal d'années. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué de tenter d'inférer en quelque sorte un théorème mathématique complexe à partir d'une thèse métaphysique en elle-même assez brève, hein. C'est beaucoup plus compliqué, ça exigerait alors pour le coup de mobiliser beaucoup trop de choses pour ce soir. C'est la seule fois où je me déroberais, c'est que ça m'a donné vraiment beaucoup de peine et je serais incapable de vous en dégager les stratégies ce soir. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Vous avez raison.
François et Nicolas, une autre question?
Une question d'une toute autre nature. Sur la question dont vous êtes parlé du rapport à la science, donc, puisque vous êtes parti du paradoxe que finalement le matérialisme n'arrivait pas à incorporer, enfin, buter, on va dire, sur le Galilée. Alors je me pose la question, finalement, la problématique que vous esquissez, est-ce qu'elle est plus compatible avec la science aujourd'hui? Voilà. Allez, je ne sais pas si, dans quelle mesure vous y avez réfléchi ou non. Si on prend par exemple sur le plan de la mécanique quantique, il y a une chose moi qui m'a toujours frappé dans la mécanique quantique, c'est que bon, évidemment on pense à ça aussitôt parce que là on est dans l'ordre du contingent absolu, mais la chose qui est décisive dans la mécanique quantique, c'est que par contre l'espace des possibles est complètement borné. C'est-à-dire que justement la mécanique quantique ne cesse de penser une contingence qui est dans un espace des possibles extrêmement restreint. Et une contingence pour autant radicale. Bon. Finalement, est-ce que la problématique que vous esquissez, est-ce qu'elle donc elle part d'une aporie ou d'un paradoxe, enfin d'une difficulté, mais est-ce qu'à votre avis, elle permet de, j'allais dire, de réconcilier la philosophie, la métaphysique ou la spéculation avec l'état actuel de la science, en particulier par exemple sur la mécanique quantique?
En fait, ce que j'essaye de faire, c'est plutôt de délier la spéculation de l'état de la science, quel qu'il soit. Je vais m'expliquer. Disons qu'il y a une certaine façon de concevoir la métaphysique par rapport, disons pour faire dire rapidement, à la physique. Si on essaye de montrer que l'ordre des choses doit être tel qu'il est, si par exemple on dit qu'au fond la métaphysique, très largement, ça a quand même essayé de montrer en quoi l'ordre des choses qui se présente à nous relève d'une certaine nécessité. Il faut qu'il en soit ainsi. On comprend que la métaphysique a partie liée avec la physique de son temps. Si par exemple une métaphysique est contemporaine d'une astronomie copernicienne, d'une astronomie ptolémaïque, il va falloir expliquer en quoi il est nécessaire que le cosmos soit configuré ainsi, ainsi, ainsi. Si par contre la métaphysique est liée à un autre ordre des choses de type newtonien, il va peut-être falloir dégager en effet une nécessité qui sera liée à cette physique différente. Si beaucoup de gens ne croient plus à une telle métaphysique, c'est parce que la relativité et la mécanique quantique nous ont appris quelque chose qui n'est pas lié à leur contenu seulement, mais qui est lié précisément à l'effondrement des paradigmes. C'est-à-dire, les paradigmes scientifiques les mieux établis, nous savons désormais qu'ils sont mortels, ils sont périssables, ils n'ont pas nécessité à périr, mais en tout cas, ils peuvent vraiment être balayés par des paradigmes très différents. Et donc on a un peu l'impression qu'un métaphysicien qui voudrait aujourd'hui s'appuyer sur la mécanique quantique ou la relativité, en tout cas c'est un peu l'impression que j'ai moi, fait la même chose qu'un métaphysicien des temps anciens qui voulait s'appuyer sur la physique de son temps. Certes le contenu n'est plus le même, mais la procédure est la même. Si je dis je vais fonder une métaphysique du hasard par rapport à en m'appuyant sur le résultat de la mécanique quantique, moi j'avoue que j'arrive plus à y croire tellement en raison du fait que ce que m'a appris très profondément la mécanique quantique et la relativité, avant même le contenu de leur thèse, c'était la mortalité de n'importe quel paradigme. Et l'impression, et moi, en quelque sorte, comme je suis un classique, je cherche dans la spéculation des vérités éternelles, quelque chose qui pourrait, et la science n'a pas cette... En tout cas, la science expérimentale ne peut plus me conserver ce gage d'éternité. C'est pourquoi, en fait, je ne m'appuie pas du tout sur un paradigme scientifique quel qu'il soit. En revanche, ce qui me paraît pérenne, c'est la scientificité elle-même, c'est-à-dire la mathématisation de la nature. Ça, j'ai l'impression que ce n'est pas une théorie, simplement. C'est vraiment une révolution dans la façon dont la pensée a abordé son monde, le monde en lui-même. Ça ne me paraît pas périssable comme un paradigme. Bon. Et de surcroît, je m'appuie d'autant moins sur la mécanique quantique que pour moi, la mécanique quantique, c'est une pensée du hasard. Et je distingue la contingence et le hasard. Le hasard, c'est ce qui présuppose une certaine constance. En particulier, la mécanique quantique énonce des lois probabiliste, mais ce sont des lois très précises. Il y a une probabilité et non une autre qui doit être obtenue. Si on était dans la contingence pure, il n'y aurait pas de probabilité obtenue un jour sans qu'il y en ait une autre un autre jour, par exemple. Donc le hasard, pour moi, c'est vraiment une pensée scientifique qui est tout à fait compatible avec une métaphysique qui croit qu'il y a une vraie nécessité des lois. Simplement, ce sont des lois probabilistes et non pas des lois déterministes, mais ce sont toujours des lois, alors que ce que j'essaye de soutenir, encore une fois, c'est une contingence des lois qui ne s'appuie donc jamais sur un paradigme déterminé de la science et qui, par là même, éventuellement, peut maintenir le thème, au fond, de la philosophie pérenne. Enfin, c'est ce thème toujours très classique.
En d'autres termes, tu distingues la contingence des événements et la contingence des lois.
Je distingue le hasard des événements de la contingence des lois, si tu veux.
Est-ce que c'est à ce moment-là, pardonnez-moi, dans les deux cas, c'est ceux qui arrivent, mais il y en a un qui arrive qui n'est pas qui est essentiellement répétable, c'est le cas du hasard, et l'autre qui est essentiellement qui n'a pas de rapport nécessaire à la répétition. Est-ce que c'est ça ?
Je vais vous raconter une fable, par exemple, un peu à la façon de Kant. Dans la déduction objective, Kant imagine ce que serait un monde où il n'y aurait pas de loi physique. Bon, il décrit des choses extraordinaires. Des champs remplis de neige un jour, un cinabre rouge, puis noir, etc. Bon, léger, puis pesant. Alors, un monde qui est soumis au hasard, c'est un monde dans lequel la science est possible. Je peux tirer des probabilités. Un monde qui serait soumis à la contingence, c'est un monde dans lequel nous pouvons éventuellement vivre, tout est stable, parfait, mais c'est un monde qui accorde des événements qui interdisent d'en faire la science. Alors, ça pourrait être quoi, ces événements ? Ben imaginons un monde dans lequel nous parviendrions encore à vivre, mais nous ne pourrions plus faire de science. Qu'est-ce que c'est ? Il faudrait que ce soit un monde quand même assez stable pour qu'on survive. Donc, il serait à peu près stable. Mais, quelquefois, il y aurait des accidents de choses, comme il y a des accidents de route. Au fond, il faudrait que les choses soient comme des automobilistes. Quand vous prenez la voiture, une voiture, vous traversez un feu, vous pouvez à peu près compter sur le comportement normal des automobilistes, mais quelquefois ils peuvent déraper, alors il y aurait des accidents de choses. Les choses quelquefois feraient n'importe quoi, et les choses rageantes, elles feraient encore plus n'importe quoi dans les laboratoires. Donc il y aurait une physique newtonienne dans l'hémisphère nord, dans le laboratoire de l'hémisphère nord, une physique quantique dans le laboratoire de l'hémisphère sud. Il y aurait des revivals de la physique newtonienne à telle ou telle période. Bon, on ne pourrait plus que faire une chronique des choses. Alors il y aurait toujours des gens qui penseraient qu'il y a une loi cachée derrière, parce qu'aucun chaos ne peut démontrer en fait qu'il n'y a pas une loi cachée derrière. On peut toujours supposer qu'il y a une loi cachée derrière. Mais ces gens-là seraient à peu près aussi tenus pour des farfelus du même type que ceux qui espèrent encore dégager une loi quantitative de l'histoire permettant de tout expliquer. Vous voyez, donc, la contingence, c'est ça. C'est un monde, en quelque sorte, qui... C'est une temporalité qui est capable de ça, qui est capable d'événements qui résisteraient à tout type de mise en loi, qu'elle soit déterministe ou aléatoire.
C'est l'histoire humaine.
Voilà, c'est la meilleure. C'est en effet ce que je pense que c'est le meilleur analogue. C'est-à-dire que, par exemple, l'histoire humaine, c'est pas simplement le fait, parce qu'on pourrait dire, mais on pourrait tirer des statistiques, par exemple.
Non, racontée par un fou.
Racontée par un fou, oui. Mais on peut tirer des statistiques des accidents de voiture, mais la disparition des fiacres pour les voitures, ou des voitures peut-être pour les astronefs. Alors ça, on est dans l'histoire à long terme où il n'y a plus du tout de voie possible.
Enfin, quand tu dis qu'il y a pas de, il y aurait pas de chronique, il y en a quand même une, parce que. Il y a une science qui s'appelle l'histoire, qui est capable à partir...
Il n'y aurait que des chroniques, c'est ce que j'ai vu.
Ah oui, d'accord, il n'y aurait que des chroniques. Non, ce que je veux dire, il y a un peu plus que des chroniques au sens strict, parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'appelle l'histoire, dans laquelle il peut y avoir une structure rationnelle du récit, et autrement dit, la rationalité ne s'épuise pas dans la rationalité des lois physiques, il peut y avoir une rationalité d'un tel récit, même du monde dont tu parles.
Alors, la différence, c'est que l'histoire...
Sauf que la science reine serait celle des historiens et puis celle des physiciens.
Oui, sauf que dans l'histoire, on peut retrouver une rationalité liée à la rationalité supposée des agents, on tente de comprendre, alors que là, ce seraient les choses sourdes et muettes et stupides qui feraient vraiment ce qu'elles veulent.
Je crois à l'histoire, procès sans sujet, je ne crois pas aux agents.
Oui, d'accord. Bon. Enfin, bon. Procès sans sujet sur les choses, ce serait complexe.
Y a-t-il d'autres questions pour finir ? Alors, il nous reste à faire deux choses. D'abord, à vous rappeler que... Enfin, trois choses. La première, c'est pour rappeler à ceux qui ont pris la peine d'enregistrer cette conférence que cette peine, j'espère pour eux qu'elle n'est pas perdue, mais qu'en réalité, tout le monde peut avoir d'ici quelques jours téléchargé cette conférence comme toutes les autres sur le site de l'école, ens.fr. Diffusion des savoirs, et que dans quelques jours elle sera donc à disposition de tous sur Internet. Deuxièmement, que la prochaine séance aura lieu non pas le 1er, non pas le 8, mais le 15 mai, ce sera dans la série philosophie politique. Isabelle Delplat de Montpellier qui viendra nous parler du concept de justice selon le droit international, selon le fonctionnement des tribunaux internationaux, disons. Et puis, troisièmement, à remercier Quentin Miyasu pour son exposé qui nous a plongé dans un monde dans lequel nous sommes peut-être, mais en tout cas, je ne pense pas que c'est celui dont nous avons la doxa ordinaire, et peut-être heureusement. Enfin, merci à vous de nous avoir rejoints.